Non, et tout ça, non. Enfin,
Oui.
donnez-nous un ordre parce
Oui,
qu'on a
alors
ça.
allez-y. Alors, s'il vous plaît, pour tous les deux, est-ce que vous pouvez me dire votre nom et puis votre date et lieu de
Alors, moi,
naissance?
je m'appelle Christiane Burguière.
Oui. Allez-y, oui.
Je suis
Je vais
née
aller.
le 2 juillet 1946 à Millau.
À Millau.
Et
Et
moi,
vous?
Pierre, je suis né le 13 avril 43 à Vesoul. C'est toujours dans le département de l'Aveyron, mais plutôt vers le nord du
Vers le nord,
département.
oui. Et deux mots sur votre famille. Enfin, vous, c'est la famille
Jean-Marie, oui.
de Léon
Léon,
Burguière.
oui, des fils de Léon, oui.
Et j'allais vous demander, c'était ce qu'on disait longtemps, un patriarche.
Patriarche.
C'était
Patriarche.
peut-être pas un patriarche. Le patriarche, c'est ce que nous, on en a fait, mais c'était un notable
Oui.
à l'époque. Il était engagé dans beaucoup d'organisations. Il était membre de conseil d'administration de mutualité sociale agricole, de crédit agricole, de la Groupama, fait tout un tas de trucs, juge au tribunal paritaire, tout ça. Et c'est vrai que nous, on ne l'a pas du tout remplacé dans ces trucs-là. Et on n'a
Ouais.
pas
Oui,
voulu.
mais justement, c'est
Ouais.
important ça, parce que le fait qu'il était notable, comme vous
Ouais.
dites,
Ouais.
il était déjà conscientisé par beaucoup de problèmes. Il était, puis il avait quand même étudié aussi.
Oui,
Donc,
ben
quand l'affaire du Larzac est arrivée, il
oui.
venait juste de prendre sa retraite, et tout de suite, nous, on était très jeunes. Moi, j'avais 24 ans, Pierre avait 27 ans,
Oui.
et tout de suite, c'est lui qui a pris un peu le bâton de pèlerin. Avec Guy Tarlier, avec Pierre Laure, un
Pierre-Laure.
industriel de Roquefort, qui
Oui.
était beaucoup plus âgé que nous.
Oui.
Et c'est eux qui ont démarré un petit peu. Et le père de Pierre, avec Guy Tarlier et Pierre Laure, ils allaient faire des réunions un peu partout en
Oui.
France pour
Oui.
essayer de sensibiliser les gens.
D'accord. Quand vous dites qu'il avait fait des études, qu'est-ce qu'il...
Non, des études pour son époque.
Oui, secondaire.
Oui,
Oui,
secondaire, oui.
oui.
Au petit séminaire, au collège.
Oui, c'était un noviciat.
Un
C'était pour des
noviciat.
frères, ce qu'on appelait à l'époque les frères des écoles chrétiennes.
Ah oui, d'accord. Mais il n'est pas
Mais il
devenu
était chez les
des
Maristes.
marianistes, maristes, les frères
Maristes,
maristes.
les Maristes.
Oui.
Ah, où ça
Dans le
c'était? À Toulouse?
département. À Montauban.
À
À
Montauban, oui.
Montauban. Mais il n'est pas devenu mariste, bien
Non,
sûr.
non, 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 non.
Et vos parents à vous,
Mes
madame?
parents, ils étaient agriculteurs à côté de Millau, aux portes de Millau.
Oui.
Et mon père est mort à presque 100 ans dans la maison où il est né. C'est-à-dire
Dans
qu'il
la
a vécu
chambre.
100 ans dans la même maison, dans la même
Dans
chambre.
la chambre où il est né.
Et mon frère a repris l'exploitation. Maintenant, il vient de prendre sa retraite.
Il a
Et il a
repris la
son
chambre?
fils qui...
Non,
Non,
non, non, non, non.
c'est le fils de ma
Ça y
sœur,
avait un
voilà.
moment là.
Enfin, c'est resté
Ça
dans la
avait changé.
famille, voilà.
D'accord.
Et ils nous ont aussi toujours soutenus pendant la lutte du Larzac. Et je pense qu'on a donné beaucoup de soucis à nos parents. Parce que bien souvent, ils ne savaient pas où on était, qu'est-ce qu'on faisait. Quand on allait faire une action la nuit, on ne leur disait pas. Ils l'apprenaient pas par les journaux, mais ils l'apprenaient quand l'action
Ouais.
était passée.
Et ils nous ont toujours soutenus. C'est
Oui.
ça, la chance qu'on a eue,
Oui.
c'est qu'au niveau familial,
Nos deux
aussi
familles.
bien des deux côtés,
Oui.
il y avait un partage de la lutte à 100%. Pas,
Oui,
non pas un
d'accord.
engagement.
Votre père était engagé, mais votre père à vous, il
Non,
était
il venait aux
pas.
manifestations,
Il venait,
rassemblements,
bien
mais il venait
sûr,
pas aux
aux
réunions.
manifestations. Au
Alors que son
tribunal et
père
tout,
venait.
oui.
Puis son père, il faisait le refus quand il y a eu le refus de l'impôt, c'était lui qui s'en occupait, qui envoyait des lettres aux gens. Il a
Qui
eu.
faisait le trésorier.
Il
Ah
était
ouais,
trésorier
d'accord.
de l'APAL, de l'association pour la promotion de l'agriculture sur le Larzac, et qui est devenue l'association pour l'aménagement du Larzac. Cette
D'accord.
association a été créée à la fin de 1971, donc elle dure encore. Hein.
Ah ouais, d'accord.
Et sous un autre, on a changé
Maintenant,
un
elle
peu les
s'appelle
lettres.
l'association pour l'aménagement du
Voilà.
Larzac, mais à l'époque, elle a été créée pour la lutte, et
Oui.
c'était l'association de la promotion de l'agriculture sur le Larzac.
Pourquoi on avait
D'accord,
créé cette
d'accord.
association? Parce
Oui.
que les pouvoirs publics ne faisaient aucun investissement
Oui.
sur la région du Larzac, comme dans beaucoup d'autres endroits, mais en fait, le Larzac en particulier,
Oui.
c'était un pays, c'était un désert. D'ailleurs, Debré, quand il présentait le Larzac, il avait été même dit que les corbeaux prenaient la musette pour traverser le Larzac. C'était dire, c'était un désert. C'était la Sibérie française. Debré appelait
Il
le
a dit
Larzac
ça?
la Sibérie
Ah
française,
ouais,
oui.
d'accord.
Alors, ça a été un tissu de mensonges parce qu'au moment où il disait ça, il y avait déjà un certain nombre de jeunes agriculteurs qui s'étaient installés. il y avait un renouveau agricole.
Oui.
Et c'était la région de France où il y avait, au début de la lutte de l'Arzac, en 70-71, où il y avait le plus de GAEC, c'est les groupements agricoles d'exploitation en commun. Il y avait le plus de jeunes agriculteurs qui étaient chefs d'exploitation.
Oui.
C'est là où il y avait une quantité d'enfants, puisqu'on on a ouvert une école sur l'Arzac, Paris ouvert.
Oui.
Ouvert carrément,
créé.
L'école.
Création créée. D'école.
Oui.
À côté,
500 mètres.
Au-dessous de l'hôpital, juste l'été.
Oui. Entre la ferme de l'hôpital et chez nous.
D'accord.
En triangle, oui. Donc, c'est dire que. Et c'est là, quand on revient en mai 68, où il y avait une certaine presse, on lisait une certaine presse, on regardait la télé, et qui était vraiment aussi au. Alors, on lisait pas des journaux de gauche, hein, faut être honnête.
Oui, oui.
On était à droite avant. Oui.
On s'est aperçu.
Par tradition familiale.
Dans mai 68, c'était nos références parce qu'on ne savait pas ce qui se passait. À Millau, il ne se passait rien. Et au début de la lutte du Larzac, quand on a vu comment les médias présentaient le Larzac, comment ils présentaient les actions qu'on faisait,
oui.
On a dit mais on nous a menti. Mais on nous a menti alors tout le temps. C'est pas aujourd'hui qu'on nous ment.
Ouais.
On avait cette naïveté de découvrir.
De croire tout ce qu'on entendait,
oui.
Tout ce qu'on voyait.
Oui. Et puis de découvrir à ce moment-là qu'on nous avait menti en mai 68. Et on a eu ces réflexions en disant, mais au fond, on ne sait pas ce qui s'est passé en mai 68.
Ouais.
On regardait la télé, c'est tout.
Ouais. Ouais. Est-ce que je peux revenir un peu en arrière pour vos études, qu'est-ce que vous avez fait comme études?
Moi, j'étais jusqu'en 5e, j'ai quitté l'école à 14 ans.
D'accord. C'était l'école à.
Ah non, j'étais dans un petit séminaire à Saint-Afrique.
Ah, un petit séminaire, comme votre frère.
Oui, mais lui, il était au grand.
Mais le petit séminaire jusqu'à 14 ans.
Oui.
Et vous avez quitté l'école
à 14 ans.
À 14 ans, donc c'est en.
J'ai quitté en 57. 57.
Et c'était pour ensuite aller.
Je suis revenu à la ferme. J'ai travaillé depuis sur la ferme. Enfin, j'ai fait un peu de formation, agricole, école d'agriculture, un peu quoi, pour c'était. Il fallait avoir quand
oui,
même un
sûr.
Peu de plus de base.
À
Millau, là. Non, mais c'est une école, tout ce qu'il y avait, c'était dans les seules choses qu'il y avait à l'époque. Il y avait la roque.
Oui.
Mais après, c'était des. J'ai fait des cours par correspondance et l'école d'agriculture à Millau, quoi. L'école d'apprentissage agricole, plutôt.
D'accord. Et vous, madame?
Moi, pas plus, pas mieux. J'ai été jusqu'au CAP employé de bureau. J'avais 17 ans quand j'ai quitté l'école parce que, c'est vrai qu'on a souffert tous les deux, on peut dire, à l'école parce qu'on était dans des écoles d'enfants
de bourgeois.
Oui. Lui au petit séminaire et moi à Jeanne d'Arc à Millau et j'étais avec des enfants de riches et. Et j'ai souffert d'une différence que je sentais au niveau de la direction de l'école.
De mépris, de.
Un petit ouais. peu. Et puis bon, c'est vrai aussi que nos parents, mais c'était certainement comme ça pour tous les enfants en milieu rural, quand on rentrait le soir, en fait, les études, ça comptait pas. Il fallait travailler pour la ferme. Il fallait, à chaque vacances, on a des souvenirs communs, en fait. Dans le même département, on n'était pourtant pas tout à fait à côté, mais on vivait les mêmes choses. Il fallait garder les bêtes, il fallait ramasser les gerbes, ramasser les sarments dans les vignes, ramasser les fruits. Il fallait tout le temps travailler. Il n'y avait pas de place pour les études. Mais ça, on le vivait pas mal à ce moment-là, mais avec le recul, on se dit que...
Ouais,
moi, parfois, j'ai eu des regrets de ne pas avoir travaillé davantage. Puis on se mariait très jeune. Moi, je me suis mariée à 19 ans. À 20 ans, j'avais mon premier enfant, donc c'était... On avait une jeunesse comme ça, quoi. Et aujourd'hui,
oui,
c'est très différent, quoi. Les enfants se marient à 30 ans, passé. Mais bon, voilà, quoi.
On passait notre adolescence jusqu'à l'âge adulte à penser à se marier, c'est tout.
Voilà, donc on s'est mariés. Moi, je me suis mariée.
Mais on ne regrette rien.
On s'est mariés en 65 et la lutte est arrivée en 1970. On avait déjà deux filles. Et donc, on s'est jeté pleinement dans cette lutte avec, je ne sais pas si son frère et ma sœur vous l'ont dit hier, mais on habitait, nous, à ce moment-là, là-bas, à la ferme de l'hôpital, on n'habitait pas ici. Hein.
D'accord.
On habitait tous ensemble à la ferme, on a vécu la lutte à côté, ouais, en commun, et on a reçu énormément de gens. C'était un point géographiquement un peu stratégique. Et donc, il y avait beaucoup de cars qui venaient, beaucoup de journalistes. On était tout le temps avec ma sœur en train de
faire, manger
de, faire de l'accueil. Et on avait tout le temps du monde à table. C'était impressionnant. Quoi,
ouais, d'accord.
Donc, notre rôle, c'était pas un rôle de vedette, entre guillemets, où on allait prendre la parole, etc. Ouais. Mais il y a eu des rôles très différents. Chacun trouvait sa place. Voilà.
Je crois que ce qu'on peut dire, c'est qu'on est passé de l'adolescence à l'âge adulte.
On n'a pas eu de jeunesse. Ouais. On n'a pas eu de jeunesse,
voilà,
c'est vrai.
Mais
on le regrette pas, parce qu'on a vécu une vie très très riche, et on la vit toujours.
Oui, mais par la suite, plutôt.
Non,
non très jeune, même, puisque très, je vous dis,
même jeune.
Moi j'avais 24 ans quand, en 1970, et lui il avait 27, donc quand ça a commencé.
Oui, je veux dire, avant la lutte, c'était aussi une jeunesse riche, moins riche. Vous avez dit que
moi, j'ai l'impression d'être sortie de l'adolescence et de m'être mariée tout de suite et d'avoir eu des enfants. Voilà, c'est ça. Donc la jeunesse, normalement, elle est entre les deux. Elle est entre l'adolescence et le rôle de parent.
On vivait la jeunesse que vivaient nos voisins à la même époque. Hein. C'était pas quelque chose d'extraordinaire. On n'était pas arriéré ou progressiste. Tous les gens, dans les gens qu'on fréquentait, c'est-à-dire le milieu rural, c'était pareil.
Ouais.
Et c'est à partir de là, de la lutte, qu'il y a eu un décalage où nous on est toujours resté paysan, mais on s'est aperçu qu'avec les paysans traditionnels qui étaient nos voisins ou même nos amis autrefois, il y a eu un décalage, c'est-à-dire qu'on n'avait plus les mêmes sujets de préoccupation.
Ouais.
C'était plus la terre, notre survie, notre problème économique, mais c'était aussi la découverte de l'armée, à quoi ça sert, de la violence, à quoi ça nous mène. On a fait un cheminement que d'autres ont fait aussi en dehors de la lutte de l'Arzac.
Oui.
Ça, c'est sûr. Mais nous, en tant que paysans, on a fait toutes ces réflexions sous la contrainte, c'est vrai, parce que c'est même pas sous la contrainte. C'est en se battant contre l'armée, on a fait toutes ces réflexions et toutes ces découvertes qui nous ont amenés à nous poser des questions que peut-être on ne se serait jamais posées.
Oui.
Mais il faut dire que toi, quand tu étais jeune, tu étais engagé un peu à la JAC, Jeunesse Agricole Catholique.
Oui, j'ai répondu.
Et là, tu avais trouvé quand même un certain équilibre, un certain épanouissement.
Oui. Parce que c'était à quel âge la JAC?
Moi, quand j'ai quitté l'école, j'ai commencé à 14 ans, j'allais à 15 ans, quoi.
Et c'était une formation religieuse?
Non, c'était pas une formation. La JAC, c'était un mouvement de jeunes.
Oui. Qui sous la direction des curés.
Oui,
c'est vrai. Mais c'était pas que. Alors, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de respect. Il y avait au niveau de une éducation de la vie de couple, comment se préparer au mariage, par exemple. Il y avait la préoccupation, justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est ce côté social et humain que la JAC a véhiculé dans le monde rural, où notre propre développement ne le ferait pas tout seul, le ferait tous ensemble.
Oui.
Et c'est vrai que ça a cultivé. La JAC a donné des Raymond Lacombe, des Bernard Lambert, des De Baptiste, bon, même si je ne suis pas du tout d'accord avec certains. Mais pour moi, non, en particulier. Raymond Lacombe ou Bernard Lambert sont deux références.
Oui.
Mais parce qu'on partage les mêmes opinions.
Non, mais puis Raymond Lacombe, c'était un petit paysan.
Il est de ce...
De l'Aveyron.
Oui, oui.
De l'Aveyron.
Oui, oui. Il avait 25 hectares de... Il avait 25 vaches, c'est tout. Et c'est vrai qu'il avait un souci du monde paysan incroyable.
Oui. Et il était chef de...
Il a été président de la FNSEA.
Président.
FNSEA.
FNSEA.
Nationale.
Oui.
Fédération nationale, oui.
À l'époque du Larzac ou
après? Après, il a été limogé.
Ouais,
pendant la lutte du Larzac, il était président de la FDSEA, c'est-à-dire du département.
D'accord.
Et c'est un homme qui nous a toujours soutenus.
D'accord.
Même s'il était bousculé, parce qu'il y en avait qui lui disaient « ils nous font chier ces gens du Larzac », lui n'a jamais fait quelque chose sans, disons, sans nous en parler.
Ouais.
Alors qu'il y en a d'autres qui essayaient de négocier dans notre dos des responsables agricoles.
Ouais.
Et c'est vrai que Raymond Lacombe, pour beaucoup de gens du plateau, a été une référence et quelqu'un en qui on avait une très très grande confiance.
Ouais.
Et c'était un grand militant de la GRC,
ouais,
puisqu'il a été responsable national.
Et, mais c'est, il y a un GAC homme et, ou garçon et un
GACF.
Moi, oui, je n'ai pas fait partie.
Non. Et les chrétiens dans le monde rural, c'est autre chose.
C'est après.
Voilà, alors
oui,
ça, on
c'est
y
après.
Était. Oui.
Ouais.
C'est toujours les mêmes, mais.
C'était les couples.
C'était plus des couples.
Voilà.
Donc là, vous étiez là-dedans.
On était là-dedans tous les deux. Et
c'est ce qu'on appelait le CMR.
On y était avant le début de la lutte.
Oui.
Et quand la lutte a commencé, le prêtre qui s'occupait du groupe, dans ses réunions, dans ses rencontres, on parlait de la lutte déjà. Et le prêtre nous aidait bien à réfléchir. Et c'était, ça a démarré comme ça, en fait, nos réflexions un peu sur autre chose que la lutte pour notre coin de terre, en fait. C'est-à-dire qu'on a ouvert nos réflexions sur ce que tu disais tout à l'heure, l'armement,
à quoi ça sert un
camp militaire,
tout ça.
C'est, oui. Jusqu'à ce que Lanza del Vasto arrive, parce qu'il est arrivé quand même au début de la lutte,
oui,
6 mois après la première manifestation à Millau, le 6 novembre, en 1er mars 1972, il nous a proposé donc une conférence à Millau sur la non-violence. Et là déjà, on était sensibilisés un petit peu par nos réflexions qu'on avait faites dans le cadre du CMR.
Et
donc on y a été.
Sur le plateau ou à Millau?
Le CMR était sur le Larzac.
Oui, mais
il y en avait à Millau,
non,
il y avait des mouvements un peu partout.
C'était une équipe ici, mais il y avait
d'autres
des dizaines d'équipes dans le département.
On
se retrouvait de temps en temps.
D'accord.
Pour bien comprendre l'importance que l'Église a eue dans le. En particulier au début de la lutte du Larzac. Parce que c'est vrai que c'était pas évident, mais l'Église s'est sentie tout de suite interpellée, surtout à cause de la violence dont Debré a annoncé l'extension du camp, c'est-à-dire j'ai décidé,
oui,
sans que tout le camp va être porté de 3 000 à 17 000 hectares, sans aucune concertation, et mieux en disant les négociations sont ouvertes, mais le camp va se faire. Bon, ça a toujours été ça d'ailleurs.
Oui.
Et l'Église a eu, en particulier l'évêque de Rodez qui était Monseigneur Dubois à l'époque.
Non.
Si. Pas du
Ménard.
Ménard. Non.
Oui. Mais celui qui nous a soutenus.
Oui, Ménard, pardon.
Oui.
Qui était le confesseur de la famille des comtes de Paris. C'était quelqu'un de très. C'était la haute bourgeoisie. Mais qui a été extraordinaire. Il a fait lire dans toutes les églises du département, le même dimanche, une lettre pastorale contre l'extension du camp.
Ah, d'accord.
Et du coup. Il a été, d'ailleurs, Debré l'a traité de, comment il avait dit, ses évêques, enfin, il l'a traité de, pas d'idiot, mais presque.
Oui, parce que normalement, enfin, souvent, l'Église est plutôt de droite pour l'ordre établi.
Oui, exact.
Mais dans ce cas-là.
Ah, mais ici, nous, on a eu vraiment un clergé à Millau extraordinaire.
Terrible.
Ils ont renvoyé leur livret militaire, pratiquement tous les prêtres à l'époque ont renvoyé
après,
leur livret militaire.
Après, c'était beaucoup plus tard.
Bon, mais... quand, oui. En même temps que les paysans, bien sûr, quand il y a eu cette action-là. C'est pour dire qu'ils étaient engagés. Ils étaient très engagés. Ils étaient dans toutes les manifs.
Puis c'était beaucoup des anciens.
En soutane ?
Non, pas en soutane, parce qu'ils ne la portaient plus, mais tout le monde savait qui c'était, quoi.
Mais on avait, dans le département, à l'époque, il y avait plus de la moitié des prêtres de la même tranche d'âge, même plus,
oui,
qui étaient des anciens qui avaient fait la guerre d'Algérie et qui en ont vu.
D'accord.
Et ces gens-là, même s'ils n'en parlaient pas, parce qu'ils ont mis très longtemps à parler, comme tous les anciens d'Algérie, très longtemps avant d'en parler, ont commencé à en parler. Et ces questions qui se posaient, ben, ils ont commencé à en parler ensemble et à trouver aussi des réponses à leurs questions ensemble.
D'accord.
Et ça, ça les a énormément motivés par rapport au Larzac.
D'accord.
Et à soutenir les
parce
pays.
Parce que le clergé n'était pas exempt du service militaire.
Non.
Non.
Non, non, non.
Ah, longtemps, oui, mais pas récemment, d'accord.
Non, non.
Donc ils ont été en guerre.
Beaucoup ont été en Algérie, ont vu la torture pratiquée,
oui,
et tout, ça
oui.
les a quand même beaucoup marqués.
Oui. Et vous avez cité Lanza del Vasto, mais il était pas exactement chrétien, il était religieux, mais pas oui. enfin, spirituel, mais. Au point de vue chrétien, il était...
C'était un chrétien d'origine.
C'était un chrétien d'origine, oui.
Oui, oui, catholique. Bon, c'est un italien, hein, alors...
Oui, d'origine. Mais son truc, l'arche, là, qu'est-ce
ah, que... Ah si, l'arche était à d'obédience chrétienne, quand même.
Oui, d'accord.
Oui.
Puis, bon, mais il y avait des noms chrétiens
Ils habitaient pas très loin du Larzac. Ils étaient dans leur communauté, dans l'Hérault, la communauté de la Bourinoble, dans l'Hérault.
Oui.
C'est à trois quarts d'heure d'ici.
Oui, oui.
Donc, ils ont entendu parler du Larzac et tout de suite, ils sont venus nous rencontrer.
Puis ils étaient venus déjà pendant la guerre d'Algérie, lorsqu'il y avait les prisonniers politiques au Larzac,
au
camp militaire, dans les bâtiments du camp militaire, là, et les gens de l'Arche étaient venus jeûner devant le camp militaire, devant là où étaient emprisonnés tous des milliers de gens, pour protester contre justement cet internement et la torture et tout. Ils ont été quand même dans les tout premiers à venir soutenir Larzac parce qu'ils connaissaient déjà pour être intervenus contre les prisonniers politiques.
Et quelle était votre impression de Lanza?
Il nous a conquis tout de suite.
Oui.
Ah oui, mais vraiment, il a conquis son auditoire à 100%, quoi, parce que on s'est senti porté, enfin soutenu par quelqu'un. Il était comme un phare, finalement.
Oui. Oui.
Parce que nous, on était complètement dans la nuit, et tout d'un coup, il nous disait ce qu'on devait faire.
Oui.
Mais je crois que c'est
mais il nous disait en même temps, c'est à vous qu'appartient de trouver des actions qui soient sympathiques à l'opinion, ne vous mettez pas les gens à dos, essayez de faire grandir votre lutte par le soutien de l'opinion publique.
Voilà. En fait, il nous disait un truc, il nous disait de toute façon, la violence, les armes, vous les avez pas. En face de vous, vous allez trouver un pouvoir, mais qui va vous écraser.
Oui.
Et c'est vrai que ça fait son chemin.
D'accord.
Et comme elle dit, et il nous disait, essayez de faire des actions où l'opinion publique va pouvoir se retrouver. Et puis très rapidement, on s'est aperçu qu'en fait, la non-violence était une technique de défense extraordinaire. Il fallait simplement l'adapter à la lutte.
Oui.
Quoi.
Oui.
Et c'est vrai que, pourquoi on a adopté aussi la non-violence, c'était au départ, c'était pas une conviction profonde, même si ça nous taraudait à l'intérieur, qu'on se posait des questions.
Oui.
Mais on s'est aperçu qu'il fallait qu'aux yeux de l'opinion, on apparaisse comme des martyrs, des victimes d'un pouvoir totalitaire. Et c'est exactement ce qu'on a toujours cherché à faire. Quand on faisait des actions, c'est jamais nous qu'on a commencé, jamais, jamais.
On répondait.
Vous voyez, en 10 ans, j'ai vu un gars qui un jour a perdu son sang-froid, qui a donné un coup de poing dans le visage d'un colonel de l'armée.
Oui.
C'est le seul exemple. Alors, dire qu'on n'a pas eu des paroles qui étaient des fois aussi très très violentes, ce serait mentir.
Oui.
Mais on n'a jamais eu un brin d'agressivité physique contre les forces de l'ordre ou autre.
Mais il n'y a jamais eu des gens de l'extérieur, par exemple, qui ont voulu noyauter le mouvement
Au départ, justement, il a fallu choisir.
Oui.
Après la conférence de Lanza del Vasto à Millau, à la fin de la conférence, il nous a proposé un jeûne de 14 jours qu'il a fait lui et il nous a demandé de nous associer à son jeûne.
Oui.
Donc, on l'a fait à la cavalerie, dans le village de la cavalerie. Ça a duré 14 jours. Nous, on a démarré le jeûne, bon, par hasard, puis il y en a eu d'autres, avec Lanza. Et là, tous les soirs, il nous faisait une causerie, midi et soir.
Ouais.
Il y avait une causerie sur la non-violence. Donc, ça rentrait dans nos réflexions. Et à la fin, il y a eu, quand il a rompu son jeûne, il y avait les Mao à la cavalerie qui étaient là. Et là, ils essayaient de récupérer. Et donc, il nous fallait choisir. Et c'est vrai que déjà, nous, à la fin de ce jeûne, parce que beaucoup de paysans, des gens de Millau avaient participé au jeûne, ben vraiment, on avait choisi notre camp. Oui. On avait choisi la non-violence, ça se sentait, quoi. Et les Mao, ben, on en a fait partir certains parce que...
Non, on ne les a pas fait partir.
Non, non, mais ils sont partis d'eux-mêmes parce qu'ils ont vu que, bon, ils nous disaient, mais il faut tout casser, il faut aller dans le camp militaire.
C'est la révolution, mais tout.
Il faut faire la révolution, et nous, ça ne nous convenait pas du tout.
Ouais. Mais les paysans, par tradition, n'est pas quand même des révolutionnaires avec le couteau entre les dents.
Mais quand même, avant qu'on découvre la non-violence, il y avait eu une manifestation à la cavalerie où les discours étaient quand même durs.
Très, très,
Et il y en avait qui disaient qu'il faut nous prendre les fourches pour le droit à la vie.
Même les fusils.
Oui, il y avait des...
Mon père l'a dit, mais...
Son père disait, on est prêt à prendre les fusils.
On les attend.
Dans les paroles étaient dures.
De toute façon. Et c'est vrai. Mais ça, c'était la réaction primaire. Oui. Mais lorsque, et ça, c'est ce, comme je disais tout à l'heure, on ne se connaissait pas au début. Mais lorsqu'après le jeûne de Lanza del Vasto, justement, qui a eu une importance capitale pour faire l'unité, on a mieux appris à se connaître sur l'Arzac, après il y avait des échanges qui étaient des fois durs, hein, entre nous. Mais il n'y a jamais eu la moindre... Il y avait de l'agressivité, mais il n'y a pas eu de haine. Et donc, on faisait des analyses de différentes stratégies.
Oui.
Et en fait, comme il y avait beaucoup de comités qui s'étaient créés en France pour soutenir le Larzac, et bien ces comités-là venaient aussi participer à des réunions avec nous. Donc beaucoup nous proposent.
Et les réunions, c'était chez vous ?
Non, il y en avait chez vous,
il y en avait un peu partout.
Oui. Partout ? Oui. Non, mais il y en avait à l'hôpital. Les réunions des paysans, au début, ça se faisait à l'hôpital, oui.
Oui.
Parce qu'il y avait un grand bâtiment.
À la maison de Jean-Marie et Janine,
oui.
Avant, ce n'était pas une maison d'habitation, c'était une.
C'est là que.
C'était un garage pour le matériel agricole.
D'accord.
Et donc, les réunions se faisaient là. Il y avait.
D'accord.
Là, on pouvait rentrer à 150 personnes.
Il y avait d'autres meetings paysans ou...
Dans d'autres réunions, oui, il y en avait, mais surtout
à la maison du Larzac, à la JAS, là. Je ne sais pas si vous avez vu le bâtiment.
À l'hospitalier aussi.
Et puis à la salle des fêtes de l'hospitalier.
Oui, non, le salle du presbytère.
Voilà.
Mais on essayait de temps en temps de faire une réunion, bon, sauf si les gens ne le voulaient pas, un peu chez tous les paysans.
Oui.
Pour que tous se sentent un peu...
Impliqués
directement. Alors, bon, il y en a quelques-uns qui n'ont jamais voulu, bon, mais ça, pas beaucoup.
Dans différents quartiers, c'est important, ça, de changer de lieu.
Et le serment, ça s'appelle le serment du...
Des 103.
103, donc il y avait 103
Il a été signé à la fin, après le jeûne.
107 qui étaient concernés, et sur les 107, il y en a 103 qui ont signé ce serment en disant qu'ils ne partiraient jamais, quels que soient les moyens employés pour les chasser.
D'accord.
Et ça, ça a été en permanence le cœur de la lutte.
Oui.
Et ça a été la référence, mais ça a été surtout, et ça, bon, que ce soit la référence pour nous, c'était bien, mais surtout pour le mouvement Larzac qui s'est créé après, surtout, ça, c'est resté toujours la référence. Donc, quand des gens nous proposaient, parce que vous savez, hein, on peut le dire, aujourd'hui, il y a des gens qui se sont pointés pour nous porter de l'explosif, pour aller faire péter tel truc. D'autres gens qui nous disaient, là, à tel endroit, vous pouvez faire sauter un truc. Tout le monde voulait avoir sa patte sur le Larzac.
Oui, oui.
Et donc, on donnait des conseils, mais des conseils qui ne correspondaient pas du tout au choix de lutte des gens du Larzac.
Oui, mais c'était un équilibre un peu difficile parce que vous aviez besoin du soutien des autres.
Oui,
voilà.
Mais en même temps, il fallait maintenir le contrôle des paysans sur les actions, c'est ça?
C'est pour ça que les comités se sont rapidement aperçus.
Oui.
Parce qu'ils venaient nous dire, bon, il faut faire telle action ce week-end et tout. On a dit, oui, c'est très bien, vous avez raison. Lundi, mardi, mercredi, vous êtes là pour assumer les conséquences de l'action. Ah ben non, on a notre boulot. Ah oui, bon, d'accord. Non, mais à partir du moment où vous êtes d'accord pour assumer, on peut faire des choses ensemble. Parce que nous, on est obligé d'assumer tous les jours. Et là, très rapidement, mais ça a été une harmonie, je dirais. Bon, je ne dis pas que ça s'est passé sans frottement. Ouais. Mais tout le mouvement Larzac a a accepté le principe que c'était les gens du Larzac qui, en dernier ressort, c'est à eux qu'appartenait la décision. Mmh. Et ça a été respecté.
Mais les comités Larzac, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Ça a été un soutien, les comités non-violents, enfin tout.
Tous les
il y en avait qui étaient au comité Larzac, qui étaient aussi au comité non-violent. C'était un peu les mêmes personnes, mais il y a eu combien? Près de 300 comités Larzac en France.
Dans le monde. 230.
Plus de 250. Le chiffre exact, on l'a pas.
Oui, il y en avait qui étaient.
Il y avait des gros comités, comme celui de Paris, Avignon,
Lyon, Marseille,
Bordeaux,
Toulouse,
Laval,
Nantes.
Mais il y en avait des tout petits, dans des villages, vraiment. Oui, et il se passait des actions.
Ils soutenaient quand même avec de l'argent, avec de la publicité. Ouais.
Oui, et puis ils venaient surtout régulièrement au Larzac. Mais pour des réunions. Des réunions de coordination. Entre les comités et les paysans.
Ça durait plus de 7 ans. Tous les mois, il y avait des représentants de tous les comités, bon, presque tous, pas tous, parce qu'il y en avait qui étaient à l'étranger alors, qui venaient sur le Larzac, on faisait ce qu'on appelait une coordination des comités, et on se retrouvait à 200, 300, ça dépendait, à Saint-Martin, pour faire le point de la situation et voir ensemble. Qu'est-ce que c'est qu'on pouvait faire? Et les comités aussi à ce moment-là nous disaient, eh bien, attention, méfiez-vous, Larzac, on n'en parle plus, il faudrait faire quelque chose et tout ça. Alors on discutait de tout ça, de la stratégie à moyen et long terme.
En fait, on faisait en sorte toujours que dans les médias, on parle du Larzac. Et si tout d'un coup ça retombait, on sentait que c'était pas bon pour nous. Si les informations, il n'y avait pas d'informations, ben ça voulait dire, le gouvernement, il disait, ça y est, ils ont abandonné la lutte, c'est terminé. Plusieurs fois, ils ont essayé de faire baisser la pression, et puis, alors vite, on imaginait une autre action, et puis on partait, quoi. On n'avait jamais de repos.
Alors là, pour vous, les actions principales, c'était quoi?
Il y en a eu, en 72.
Le Tour Eiffel à Paris.
Oui, merci. Ça, c'est
le jeûne était aussi une action principale, parce qu'on n'avait jamais fait ça de notre vie, et on a trouvé ça très fort. Après, il y a eu les tracteurs à Rodez, en juillet 72. Il y a eu 60 tracteurs qui sont montés à Rodez. Après, il y a eu les moutons, la même année, les moutons sur la Tour Eiffel en octobre, quand il y a eu l'enquête d'utilité publique.
Ouais.
On avait amené aussi, au début de l'enquête, 1500 brebis.
2000 brebis.
2000 brebis.
Ça joue les
devant la mairie de la cavalerie.
Des paysans qui ont accepté du village de la cavalerie, tous mélanger les troupeaux.
Ouais.
Il y avait plus de 2000
brebis. Sur la place de la mairie.
Pour bloquer l'entrée de la mairie.
D'accord.
Mais je peux vous dire, ça a
mis... Pourquoi bloquer la mairie?
Parce que c'était là
qu'il y avait le commissaire enquêteur.
Ah, d'accord.
Non, mais ça,
là, ça a duré combien? 15 jours, 10 jours, l'enquête de l'utilité publique. Une délégation dont on faisait partie, on est allé à Paris avec des 60 brebis qu'on a fait amener sur le champ de Mars, sur la Tour Eiffel. Et c'est là que le Larzac a pris une ampleur nationale à partir de cette action.
Ouais.
Parce que jusque-là, c'était resté dans le cadre local.
Ouais. Je sais pas, vous avez jamais vu le CD sur la lutte du Larzac?
Non, j'ai vu tes photos, mais pas le CD.
Il y a un CD.
Alors là, vous comprendrez, en voyant ça, vous comprendrez certaines choses.
Ouais.
Quand vous parlez, quelles sont les actions.
Ouais.
Mais il y a eu des foules d'actions.
Après, en janvier 73,
des centaines d'actions.
On est reparti à Paris, enfin je dis on, évidemment, c'est le Larzac, hein, parce qu'en tracteur, donc. Et il y avait eu une seule femme, d'ailleurs, en plein hiver, du Larzac à Paris en tracteur, il y avait 26 tracteurs.
Puis
des actions comme ça se prépare longtemps à l'avance.
C'est l'action qui a été bloquée à Orléans.
Voilà, c'est ça.
Et c'est à ce moment-là que
en 73.
Bernard Lambert a trouvé
le soutien de Bernard Lambert.
Oui,
on l'avait déjà.
Vous l'avez dit déjà.
Oui, oui.
Et il a annoncé
Le rassemblement.
Il a proposé un rassemblement paysan ouvrier pour l'été.
On en avait discuté, quoi.
Donc ça s'est fait, où il y avait 60 000 personnes et avec des marches convergentes qui venaient de
du sud, de l'ouest, du nord.
Et ce qui est incroyable, c'est que à chaque fois qu'on avait fait une action forte, on était dans notre tête, dans notre cœur, on disait on a gagné. Cette fois, c'est pas possible, on a gagné, on disait. Et en fait, on n'avait jamais rien gagné. On continuait toujours.
Il fallait continuer.
Mais on avait le moral. Après chaque action, on disait mais c'est extraordinaire, tout ce soutien. on était vraiment persuadé que là, on allait gagner, quoi. On a toujours eu cette foi.
Et après l'élection de Giscard, il y a une...
Ben, on avait toujours le champagne au frais et on buvait un coup quand même pour se remonter le moral. Et...
Non, mais je crois qu'en fait...
Oui, 74, ça a été difficile, mais justement, il y a eu un autre rassemblement où il y avait le double de personnes de l'année d'avant.
Oui.
Par rapport à l'année d'avant.
Mais on n'a jamais cru... sous le gouvernement de droite, on n'a jamais pensé qu'ils abandonneraient le projet. Je crois que... Et c'est vrai qu'on a... Autant, bon, aussi peut-être parce que bon, Mitterrand est venu en 74 sur le Larzac, il a failli y laisser sa peau, hein, il s'en rappelle. Hein.
À quel moment il est venu?
Au rassemblement de 1974.
Après, sa défaite
en fait, aux élections présidentielles en 2000.
Et on lui a sauvé la vie, ça n'a pas été facile, il y avait une collusion, on avait plus que... Ça aussi, c'est la richesse du mouvement qui a soutenu le Larzac. On avait des gens... qui ont trafiqué des postes, qui ont enregistré pendant tout le rassemblement toutes les conversations des flics, de la préfecture, des spécialistes, hein, mais oui, bon, oui. C'était ça aussi le mouvement. Et donc on a su que c'était une opération, ça s'appelait l'opération Alpha.
Oui.
Ils allaient sauver Mitterrand et pour faire passer le Larzac comme des gauchistes et des terroristes même.
Ah bon ?
Ah oui, oui, oui. Et ça, on avait les enregistrements de ça.
D'accord.
Et bon, alors, c'est vrai qu'on n'a pas trop voulu remuer, parce qu'on espérait toujours qu'il y aurait une négociation,
oui.
Mais négociation vraie, une vraie négociation, et non pas...
Oui.
Alors, on n'avait pas envie de jeter sur la place publique les histoires qu'on n'aurait jamais dû entendre, quoi, par exemple.
D'accord, d'accord.
Contre le pouvoir de l'époque.
Oui, oui. Et à certains moments, vous avez parlé de la non-violence, mais à certains moments, il y avait des confrontations avec l'État, des bagarres,
Des bagarres sur le terrain ici, il y avait tout le temps des escarmouches, c'est-à-dire que les militaires ils débordaient de la limite du camp militaire, ou involontairement parce qu'ils
perdaient. Non, volontairement, non.
Mais c'était... il fallait toujours aller les sortir de nos terres, il y avait tout le temps, ils passaient dans les hameaux la nuit avec des engins blindés, avec.
Dans les fermes partout, oui.
Ils piétinaient les récoltes, ils passaient avec des hélicoptères très bas, ils effrayaient les troupeaux. Il y avait tout le temps des actions sur le terrain, il y en avait en permanence.
Et ça,
on les gérait entre nous.
Vous êtes anglais.
Oui.
La BBC nous a rendu un service extraordinaire.
Ah bon?
À l'époque.
Qu'est-ce
qu'il a fait? Eh bien, l'armée anglaise venait s'entraîner sur l'Arzac.
Oui.
Et bon, entre parenthèses, l'armée anglaise, bon, pas davantage l'armée française, mais en fait, on ne l'aimait pas.
Je peux
vous le dire. Parce qu'ils étaient odieux.
Non,
ils étaient odieux.
Oui, c'est normal.
Et là, ils venaient s'entraîner dans le hameau de la Blaquière, sur les maisons, pour aller à Belfast, après.
D'accord.
Maintenir l'ordre. Et ça s'est trouvé qu'un jour, la BBC vient faire un reportage sur le Larzac, et elle tombe à la Blaquière avec... des Anglais qui étaient sur les toits des maisons, qui faisaient tomber des lozes et tout, alors qu'il y avait les habitants dedans, un char qui essaie de rentrer dans les petits chemins qu'il y avait, il passe pas, ça il touchait, il avait fait tomber un mur, alors il a été obligé, il y avait les enfants de la famille Guiraud qui étaient tous devant et qui, avec un bâton pour le feu, c'était dérisoire, mais effectivement, on a dit qu'ils étaient menaçants.
Oui.
L'armée anglaise avait dit que des gamins de 7 ans, 8 ans, 5 ans, même, avec des bâtons qui faisaient reculer le char. Et la BBC nous a donné une copie.
D'accord.
De ça.
Ouais.
Et en France, ça a fait un bordel. C'est monté au gouvernement anglais, gouvernement français, que si c'était pour étendre le camp du Larzac, le camp sur le Larzac et faire venir les armées anglaises et allemandes pour s'entraîner, on n'avait pas besoin d'eux, hein, il y a eu des excuses, enfin bon.
D'accord.
Mais c'est grâce à la BBC qu'on a eu ça.
Ouais. Et comment dirais-je, j'ai aussi la question du plastique cage de la maison de...
Voilà, ça c'était en...
Cette famille-là.
C'était en 1975, le 15 mars.
Oui.
Il y a eu donc une charge de plastique qui a été placée devant la porte d'entrée de la maison de la famille Guiraud.
Dans un moyeu de roues, de char. Il y avait un moyeu de roues de char qui servait pour un pot de fleurs. Et ils ont mis la charge là-dedans. Et en fait, c'est de l'explosif. C'était de l'explosif militaire. Ça, les experts ont été catégoriques là-bas. Et c'était fait pour tuer. Parce que c'était une maison en voûte. Ça aurait été une maison traditionnelle comme ça. Il n'y avait plus personne, hein, c'était clair. Mais là, la voûte, c'est très lourd, puisque c'est que des pierres toutes là, tout le toit. C'est soulevé. D'après les experts, ça s'est soulevé de 3 cm, mais c'est retombé de son propre poids parce qu'il y avait plusieurs fenêtres où tout a explosé, les fenêtres et les volets. Donc le souffle a réussi à partir par là, ce qui a empêché que la maison tombe. Il y avait 10 personnes dedans. Et je peux vous dire, quand on a... De par-dessous, on voyait le jour à travers la voûte, pour vous dire.
Ouais.
On l'a sauvé en rechargeant... On a fait une coque de mortier, quoi, au-dessous, pour tenir.
Mais et quand vous dites « il », c'était des agents provocateurs,
oui, c'était l'armée. Oui.
Il y a eu un non-lieu.
Oui.
Il y a eu un procès, il y a eu un non-lieu.
Oh, d'accord.
Quand
ils n'ont pas voulu dire
quand c'était. On ne veut pas trouver...
Bien sûr, c'est facile de dire ça.
Mais voilà.
Mais c'était une période difficile, parce qu'on avait construit depuis 2 ans... On avait commencé la construction de la bergerie de la Blaquière, qui était illégale. Donc on pensait qu'il y aurait des représailles par rapport à la bergerie, mais jamais par rapport à une famille,
non,
à une maison d'habitation. On n'a jamais imaginé ça, parce que la bergerie, elle était proche de la maison des Guiraud. C'était pour les Guiraud, cette bergerie.
D'accord.
Les Guiraud et les Jonquet.
Mais vous savez, c'est la famille, elle en est encore aujourd'hui traumatisée de ça. Hein.
Oui, oui.
Il y a un fils qui s'est suicidé.
Ah bon?
Et bon, alors, c'est pas pour ça spécialement, mais ça les a déglingués. Moralement...
C'était très difficile, après de... Je pense qu'ils auraient... Cette famille-là, en fait, c'est vrai que la Blaquière, c'était un peu le verrou du Larzac, parce que le hameau se trouve à la limite, à la lisière du camp militaire. Donc, commencer par évacuer ce hameau, pour eux, c'était gagné.
D'accord.
Donc, les tuer, ben, c'était gagné aussi. Quoi. Finalement, ils sont restés vivants, hein, Dieu merci. Donc, c'est un miracle. C'est
vrai. Oui, là. C'est...
Et après, il a fallu les soutenir moralement. Parce que s'ils nous avaient dit, on ne peut plus rester, on a envie de partir, personne n'aurait osé leur dire s'ils restaient.
Ouais.
On les aurait laissés partir, mais ça aurait été terrible pour les autres. Mais on aurait compris leur départ.
Oui.
Et en fait, ils ne sont pas partis, et leur maison a été reconstruite.
Oui.
Voilà quoi, mais ça a été terrible pour eux parce que la nuit ils entendaient toujours le bruit de la déflagration. Pendant des années ils ont entendu ça.
Vous savez, toutes les fermes, on en était arrivé à attacher des chiens devant les portes.
Et le pire, c'est que quand ça s'est passé, il y a des clous qui ont été semés sur les chemins des fermes pour pas que les secours arrivent. Donc on a été avertis.
C'est surtout que c'est Élie Jonquet, donc notre habitant est de la Blaquière.
Il était en GAEC avec Guiraud.
Avec Auguste Guiraud.
Oui,
ils sont venus, ils sont arrivés les 4 roues crevées par des clous.
Il y avait des clous partout, mais plusieurs fois on a eu des clous sur le chemin.
Ah oui,
là. Ça a été.
Ça a été très dur quand même.
On voyait scintiller des choses, on s'arrêtait, il y avait des clous, on ramassait des clous, on crevait sans arrêt.
Tous les matins, on allait regarder à l'entrée des chemins des fermes s'il n'y avait pas des clous, et on ramassait des clous. Il y en avait sur le bord de la route.
Ouais.
Aussi, bon.
Mais il fallait être très très vigilant, hein, parce que d'un côté, on avait le soutien, on était fort, et de l'autre côté, bon, on était quand même voisins du camp militaire, et puis il y avait aussi les commerçants de la cavalerie qui étaient, eux, pour l'extension du camp, parce qu'ils pensaient en retirer des bénéfices. Bon, ils n'étaient pas trop méchants quand même, mais enfin...
Les gens de Millau étaient avec vous
ou... Oui, au début, non. Mais au début, on leur a promis 3000 emplois.
Les ouvriers, oui, les ouvriers étaient avec nous.
3000 emplois, Millau qui était en train de vivre la crise de la ganterie.
Oui.
Donc, 3000 emplois, bon, mais ça va, on va pouvoir rester là, notre avenir est assuré.
Et six mois après, il n'y en avait plus que 300 emplois, finalement.
Et puis,
après,
c'est ça se résumait à 30 emplois.
Promis.
Oui, enfin, oui, et il y en a eu. Si, ils y ont été. Ils ont été obligés, quand il y a eu le règlement, parce qu'ils ils ont été obligés de modifier un peu le fonctionnement du camp, alors ils ont embauché 30 emplois, mais qui étaient. Enfin, c'est ce qu'ils ont dit maintenant.
Après, comme grande action en 1976, il y a eu la prison.
La prison,
donc, puisqu'il y avait des achats de terres, l'armée disait qu'ils achetaient des terrains à l'amiable.
Non, qu'ils n'achetaient plus, ils voulaient qu'on négocie. Alors l'armée disait qu'on arrêtait d'acheter le temps que dureront les négociations. Et puis nous, on entend, alors, bon, seulement ces négociations, ça se renvoyait parce qu'il y avait toujours, c'était miette, quoi, et on ne nous proposait rien. Et un jour, on entend que l'armée venait d'acheter deux grosses fermes.
Oui.
Alors on a dit, bon, mais il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on rentre dans le camp, qu'on aille voir ce que l'armée achète pour le dénoncer publiquement, voilà. Auprès de la population locale. Et c'est ce qu'on a fait, on a fait une action commando, on est rentré à 22 dans le camp pour prendre connaissance de tous les dossiers.
20 hommes et 2 femmes.
Dans le lieu
de
l'antenne, ce qu'on appelait l'antenne génie domaine, c'est-à-dire ce qui était chargé de tous les achats des terres. Et là, on a pris connaissance, on a réussi à faire des photos et tout. Bon. On a été fouillés, mais ils n'ont pas osé, ils n'ont pas tout trouvé, en particulier les pellicules. Bon, tous les dossiers qu'on avait pris, ça, ils nous ont tout pris. Mais les pellicules, on avait réussi à planquer des trucs qu'on s'est passé après au tribunal à Millau, quand on a été jugé en flagrant délit.
Oui, oui.
Le lendemain matin.
Et à la fin du procès, même pas, au milieu du procès, les photos qu'on avait prises donc de tous les dossiers, ça avait été développé par on avait un grand militant là qui était photographe.
Oui.
Et donc on a pu dénoncer tout ce que l'armée préparait alors que le préfet nous garantissait que ça n'existait pas. Et donc c'est là où on a découvert les Millavois, ça les a rendus fous, que Millau se trouvait exactement dans l'axe de tir. C'est-à-dire que
des canons
d'artillerie.
Du camp. Millau se trouvait en face.
Dans l'axe de tir.
Oui.
Bon, on sait que.
Si le camp s'était agrandi.
C'était agrandi.
Ah ouais, d'accord.
Oui. Dans le cadre toujours du projet d'extension.
Alors, souvent, ce qui se passe, c'est que dans des camps, on met demi-charge ou charge complète. C'est-à-dire que quand on ne peut pas tirer trop loin pour les canons.
D'accord.
C'est des obus demi-charge. Et là, c'était dans le cadre d'obus demi-charge, mais c'est arrivé des dizaines de fois qu'ils se trompent, qu'il y ait des obus pleine charge. Et l'obus, au lieu de s'arrêter ainsi, il partait de l'autre côté, là-bas. Alors ça les Millavois... qui savent qu'il y a des erreurs aussi de tir.
Parce qu'ils tiraient, ils faisaient des exercices de tir.
Réels.
Réels.
Oui. Oh non, maintenant c'est du simulé. Maintenant oui, si, ils en font, mais c'est des tout petits. C'est même pas au canon. Il n'y a plus de canon.
D'accord. Et là, vous avez été jugé, vous avez fait du prison.
Oui. Ouais,
une semaine.
Une semaine.
Parce qu'ils étaient paysans, ouais. Qu'il fallait. Ils ont été, les vrais paysans. Ont été relâchés pour faire les moissons. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés le lendemain de l'action, c'est-à-dire le 30 juin,
ouais.
Et ils ont été libérés le 4 juillet, pour faire les moissons. Et normalement, ils devaient retourner en octobre, effectuer leur peine. Et ils n'y sont jamais retournés.
Non, même les autres ont été...
Et ce qui est extraordinaire, c'est que parmi les 7 paysans, il y avait 2 paysans de la ferme des Truelles, c'est-à-dire oui. des non-violents de la communauté de l'Arche,
oui.
Qui étaient aussi considérés comme des paysans, alors qu'ils étaient quotidiennement menacés d'expulsion de leur ferme, parce que c'était illégal leur occupation. Et là, finalement, on les considérait comme les autres paysans, les paysans les a libérés pour effectuer les moissons sur les Truelles. Alors c'était paradoxal.
En fait, ils ont sorti une loi, parce que ça faisait un foin terrible, là. Hein. En France, il y avait des gens qui voulaient foutre feu aux Cévennes, c'était fou, hein. Il faut comprendre le climat qu'il y avait. les trains, il y avait des trains qui, ils ont foutu le feu, il y en avait qui voulaient les faire dérailler, tout. Alors, il y a eu beaucoup de pression de Raymond Lacombe, qui était président, sur Chirac, oui. qui était alors ministre de l'Agriculture.
Oui.
Et là, ils ont tout fait. Alors, la justice indépendante, ça a été surtout, les paysans, il faut les faire relâcher, c'est le minimum. Et notre avocat, qui était maître Jean-Jacques de Félix, de Paris, là, nous a dit que c'était la première fois dans son histoire d'avocat, dans sa vie d'avocat,
oui.
que le juge d'application met des gens en prison.
Oui.
Ce même juge d'application des peines, dans l'heure qui a suivi le moment où il a fait ce papier, il refait un papier pour faire ressortir de suite les gens.
D'accord.
Parce que tout était, mais vraiment, c'était à Millau, il y avait 4 000 à 5 000 personnes qui allaient mettre la région. Et puis c'était partout en France. Hein. Des gens, des comités.
Non, c'était une cause célèbre en France.
C'était une action très très forte. Ouais. Les cars qui devaient amener les prisonniers étaient sur la place du Mandarou à Millau, la place principale. Et les manifestants empêchaient les cars de partir. Parce qu'il fallait qu'ils aillent à la prison de Rodez. Et les manifestants étaient devant les cars, ils empêchaient les cars. Et c'est nous, les femmes, et les parce que c'était un peu les principaux qui partaient en prison, on faisait pousser les manifestants en leur disant « Mais laissez-les partir, ça ne sert à rien de bloquer. » C'était terrible, cette action.
Et on a, à l'arrivée à la prison de Rodez, là, après le jugement, donc,
ouais.
le commandant de l'escadron de garde mobile, quand on est descendu du car, tous, il y avait le commandant et son adjoint qui étaient à côté et tous nous ont serré la main en disant, et pourtant le commandant il avait l'oreille arrachée là.
Ah hein, oui.
Pour dire, bon ça, il y en a qui ont perdu un œil.
Il y a des manifestants qui ont renversé des poubelles.
Oui, oui.
Il y avait une haie d'honneur, enfin, il y avait un service d'ordre donc des marches de tribunaux. Et là il y avait des manifestants qui ont renversé des poubelles sur les filles.
Ouais.
Déchaînés, ils ont appris le verdict.
Ouais.
Ils nous en ont jamais voulu, ils nous ont remercié. Ils ont dit vous avez évité l'émeute à Millau.
Ah d'accord.
Ah oui, oui, non, mais c'était plus que chaud. Oui.
C'était le moment plus chaud de la décennie.
Ça a été une des actions les plus dures. Bon, après, il y avait des actions sur le terrain, il y avait des.
La marche sur Paris.
Si, la marche sur Paris, ça aussi, là, on a eu peur quand même. Il y avait autant de flics, de manifestants. Il y en était quand même plus de 80 000 personnes. Toutes les rues qui étaient bloquées, on n'avait qu'un seul axe. Et à mesure, sur des étages, les flics nous balançaient des grenades lacrymogènes.
À Paris, ça ?
Oui, oui. À l'arrivée de la fameuse marche à pied.
C'était impressionnant, cette arrivée de marche, parce que...
C'était en quelle année ?
Ça a commencé le 8 novembre 78,
ouais.
et elle a duré jusqu'au 2 décembre, donc 3 semaines, qui est à 710 km d'ici à Paris.
Ouais.
Et je crois que c'était à la porte d'Ivry, ou d'Evry,
ouais, ouais. Porte d'Orléans, on arrivait, et l'itinéraire qu'on avait négocié, c'était porte d'Orléans, porte d'Italie.
D'accord.
Et parce à ce moment-là, il était donc, ce parcours était autorisé pour la manifestation, et il y avait quand même 17 000 flics avec les casques et les boucliers qui étaient tout le long du parcours.
Tout le long, hein. Mais après, il y avait tout ce qui était planqué.
Et au milieu des flics, il y avait les manifestants avec les bâtons, il
n'y
avait pas un bruit, pas un slogan, le silence. On n'entendait que les mains comme ça. Que les bâtons.
Les bâtons.
Je peux vous dire que c'était fort.
Quand c'était bloqué.
Le silence, ça a une force.
Oui, oui.
Incroyable.
Donc c'était prévu que ce...
Et là on était toutes les familles.
Silencieux.
Hein. On avait les enfants avec nous.
Oui.
Ah oui, on arrivait à Paris avec les enfants.
Parce que vos enfants avaient quel âge à ce moment-là?
Ah ben notre fils Sophie avait 3 ans.
Oui.
Et les filles, elles avaient 8 ans, 10 ans.
Oui. Oui.
On avait pris toutes les familles pour l'arrivée à Paris. Mais en même temps, on prenait des risques. Hein. On prenait de gros risques parce que ça pouvait mal passer d'ailleurs. C'est ce qu'ils racontaient. Quand on a reçu les grenades lacrymogènes, on était dans un village. Moi, je ne savais même pas où il était, il était au milieu des flics, lui, il essayait de faire de faire respecter la non-violence. Il y avait parce qu'il y avait des autochtones qui étaient infiltrés pour la bagaille.
Les autochtones.
Oui, pardon. Donc, Mais après, on a fait partir les enfants, il y en a qui les ont pris. Parce que ça devenait dangereux.
En fait, c'était, bon, des autres, on a appelé ça des autonomes. Il y avait beaucoup de flics dedans. Et nous, moi, j'étais tout à fait dedans.
Oui,
mais des flics. C'était des flics.
Mais ils voulaient.
Et tous, ils étaient habillés en treillis. Ils balançaient des trucs sur les flics. Et après, on les a suivis. On les a photographiés et tout. Et ils sont partis avec les flics.
En fait, ils voulaient nous pousser à la violence.
Oui,
tout
oui.
Le temps, quoi.
Casser le mouvement.
Ils voulaient casser
en permanence.
Casser l'image. Voilà.
Du Larzac.
Voilà.
Parce que c'était une lutte sympathique à l'opinion publique. Nous, c'était l'État qui était le grand méchant loup, quoi. Et nous, on n'a rien demandé et l'État est venu foutre dehors. Donc, c'est normal qu'ils se défendent.
Ouais.
Mais même beaucoup d'officiers qu'on a rencontrés, aussi bien dans les gardes mobiles que dans les militaires, nous disaient « Ben, moi je serai à votre place, je ferai comme vous.
Ouais. »
Et c'est normal.
Ouais.
Et bon, alors, c'est vrai qu'on a toujours essayé de faire passer le Larzac comme des gauchistes. Les babacous de mai 68 et gauchistes.
Et là, le lendemain de l'arrivée de la marche, il y avait une entrevue au ministère. Et là, c'est pareil, on attendait vraiment, vu l'ampleur de la marche, il y avait plus de 100 000 personnes arrivées à la porte
d'Italie. Oui.
On espérait que le lendemain, vraiment, l'entrevue allait bien se passer. Ben, ça n'a rien donné de plus.
Non.
Donc, on est revenu chez nous en nous disant, bon, mais qu'est-ce qu'il faudra faire encore?
Oui. Mais quand vous dites que vous n'étiez pas des gauchistes, il y avait des gauchistes parmi vous, enfin
des
Germains ou des gens de la COP, mais est-ce que la différence c'est qu'ils étaient plus ou moins sous vos ordres, ils ont obéi aux consignes de la non-violence, c'est ça?
Oui.
Ça, écoutez, vous pouvez, j'aimerais que vous rencontriez un gars comme Alain Desjardins, comme Alain Salmon,
des
militants de la COP.
J'ai rencontré Pierre Buarin.
Oui, mais Pierre aussi, oui.
Il nous en a parlé.
Oui, oui.
Et bien, ces gens-là
oui.
nous l'ont dit. Ils ont dit, de toute façon, c'est pas nous qu'on a converti les paysans du Larzac à la lutte armée, c'est les paysans qui nous ont convertis, nous, à la non-violence.
Oui.
Et c'est vrai. Si la lutte avait duré un an ou deux ans ou six mois, c'est sûr que le problème ne se serait pas présenté du tout de la même façon. Mais là, les gens, ils ont bien compris tout de suite que s'ils voulaient continuer cette lutte du Larzac, la faire un peu aussi leur affaire, il fallait que les paysans y restent. Donc, si les paysans y restaient, il fallait que ce soit eux qui décident qu'est-ce qu'on pouvait faire et qu'est-ce qu'on ne pouvait pas faire. Par contre, à Paris, nous, on leur disait, moi j'étais avec deux copains du comité de Paris négocier chez le préfet de police à l'époque, Sommeil, l'itinéraire.
Oui.
Qu'est-ce que vous voulez que nous on dise? Moi j'avais rien à dire, je connais rien, je sais pas. Je faisais confiance, et j'ai fait totalement confiance aux copains, et ça a été très bien, parce que eux savaient.
Oui.
Mais ici, ils ne savaient pas.
On n'aimait pas les manifs à Paris. On était perdus complètement.
Oui.
C'est terrifiant pour nous, c'est vrai. On n'était pas habitués à le métro. Après, ça, quand ça a commencé à bagarrer, les gens partaient dans tous les sens. C'était difficile. Quoi.
Ouais. Ouais.
On n'aimait pas aller faire des actions à Paris. Mais on savait que c'était nécessaire.
C'était le comité à Paris qui vous a poussé à faire ça.
Mais, ah oui, mais c'est sûr, de faire des trucs. On savait très bien que le pouvoir, pour qu'on en parle, il fallait faire des actions
faire
à Paris.
Fort, c'est
que même on parlait moins d'un rassemblement de 5000 personnes ici que des brebis sous la tour Eiffel à Paris. Et pourtant, ça parlait. C'est les enjeux politiques derrière sont autrement importants avec un rassemblement de 5000 personnes que des brebis sous la tour Eiffel.
Ouais.
Mais les médias, de qu'est-ce qu'ils veulent? Le scoop.
Et donc la phase juridique, elle continuait toujours, et en 1980, ben, les ordonnances d'expropriation allaient être prises, et on s'est dit, puisqu'on va nous chasser de nos terres, ben, on s'en va avec nos familles, et on va cette fois camper sous la tour Eiffel. Donc on est allé camper,
sur le champ de Mars.
Et on est resté 12 jours quand même.
À Paris,
pas 12
non,
jours
pas,
sous la tour Eiffel, on est resté 5 jours et 5 nuits,
ouais.
toujours en décembre,
hein, 6 jours et
avec 5 des gamins, il y avait des enfants, des bébés de 2 mois,
Donc, et c'était décembre 80.
Décembre 80.
Oui.
Ça, c'était un peu avant la fin de la lutte.
C'était un peu avant la fin.
Parce que là, on sentait que le rouleau compresseur avançait toujours.
Et ils nous ont expulsés au bout du cinquième jour, une après-midi, parce qu'ils nous surveillaient. Il y avait tous les jours des voitures de renseignements généraux qui surveillaient le va-et-vient, des gens qui venaient nous soutenir, qui venaient nous rendre visite, etc. Et puis à 5 heures de l'après-midi, là où il y avait le moins de monde sur le campement, parce qu'on avait installé des tentes et tout, on avait même créé une école.
Oui.
On était prêt à faire l'école là sous la tente en décembre. Et puis là, les 3 ou 4 quarts de garde mobile sont arrivés et ils nous ont embarqués dans un foyer d'accueil. On a passé la nuit dans un foyer d'accueil et on s'est réinstallé sur une péniche sur la Seine. Et là, on y restait encore 3 ou 4 jours. On était sur la péniche, on était.
Mais on avait installé
des tentes aussi sur les quais
dedans.
De la Seine. Il y avait sur les quais de la Seine, il y avait des tentes aussi.
Oui.
Sur la péniche, on était nombreux.
Oui, mais il y avait des gens qui couchaient à côté, qui allaient.
Oui, bien sûr.
Mais vous voyez, c'était rigolo parce qu'en fait, c'est là aussi la grande. Alors peut-être vous pourrez expliquer ça, parce que nous, on n'a pas tellement d'explications. En tout cas, je ne sais pas, mais comment on est arrivé à ce que, je vous prends deux exemples. Quand on était au Champ de Mars, bon, il se trouve que le patron de la société des bateaux-mouches, c'est un gars qui est à la limite d'originaire de la limite du Lot et de l'Aveyron. Sont deux frères, ils s'appellent Bruel.
Ouais.
Et quand on préparait justement cette occupation du Champ de Mars, on avait dit qu'il faudrait aussi faire un truc à Paris, une coordination des comités. Mais une coordination des comités, s'il pleuvait, il nous fallait un local. Alors on a un gars, là, Jean Chéneau, là, l'historien, a dit bon, mais il faudrait peut-être voir avec Bruel la société des bateaux-mouches. Et alors, c'est lui qui s'est occupé de ce contact. Et le gars, qui sont des gens de droite, mais plutôt même extrême droite, mais qui aiment jouer des vacheries, qui aiment faire des vacheries, aussi bien à la ville de Paris qu'au gouvernement. Ça s'est trouvé qu'ils ont dit, un des deux l'a dit, à chez nous, si ce sont de vrais paysans, je vous ouvre le.
Je vous donne
un bateau-mouche gratuit. Pour toute la journée, on était 600 au moins, pour la réunion, je vous ouvre le snack, bon, vous paierez là votre part, et je vous fais faire un tour de bateau-mouche sur la Seine. Le gars lui dit, attention, hein. Oui. On était à Paris, donc, ils viennent me voir, et c'est vrai que je parle patois, je courant mal le patois, et je me pointe donc avec lui, il me dit, fais gaffe, hein. Tu as intérêt à parler comme il faut parce que c'est qui tout double. Effectivement, je rentre, bon, je commence à lui parler en patois, bonjour monsieur Bruel et tout ça. Le gars, je parlais, il était là. Il me regardait. Bon, mais je me suis engagé, je le respecte. Par contre, il y avait son frère à côté. Lui, il ne s'était pas engagé et il ne voulait pas.
D'accord.
Quand on est occupé toujours le Champ de Mars, on avait demandé le téléphone, l'électricité et tout. Bon, on avait des groupes électrogènes. Et la mairie de Paris avait dit... le gouvernement, niette.
Oui.
La mairie de Paris, parce qu'il y avait des règlements de compte entre Chirac et Giscard, a dit, bon, on va vous installer le téléphone. Ils ont fait dire aux employés municipaux de nous donner du bois pour qu'on puisse, c'était au mois de décembre, entretenir le feu. Alors il y avait des règlements de compte entre politiques dont nous, effectivement, on bénéficiait.
D'accord.
Pourquoi le Larzac a pu rassembler des gens depuis l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite.
Ouais.
Et vous auriez vu à la Blaquière, en particulier au moment de la construction de la bergerie, quand des gens s'invectivaient entre eux, entre extrême droite et extrême gauche, c'était rigolo. Et on leur disait, ça c'est une manifestation là. Là vous avez tous les deux votre place. Faites-la, après vous pourrez discuter entre vous. Et c'était quand même incroyable.
Oui, on a toujours dit que les extrêmes se rejoignaient.
Voilà. Bon, deux petites questions de plus. Alors, sur votre trajectoire, donc tout cela a été résolu plus ou moins après l'élection de Mitterrand, mais par la suite, non, c'est pas vrai? Allez-y.
Si.
Problème foncier, oui, mais
Foncier.
la remise à plat en 81, c'est pas quelque chose qui a été simple. Je vous
D'accord.
conseillerais de voir Louis Joinet
Oui.
à Paris.
Oui.
J'ai pas. Qui vient de perdre sa femme, là, il n'y a pas longtemps, là, il y a 15 jours. Mais lui, ça a été le juriste chargé par Mitterrand de régler tous les problèmes d'ordre juridique du Larzac. Jamais une expropriation n'avait été menée aussi loin, c'est-à-dire qu'on n'était plus propriétaire, il n'y avait que l'expulsion qui devait être faite, et où il a fallu redémonter toute la machine juridique pour rendre la terre aux agriculteurs. Donc, tout ça pour vous dire que ça ne s'est pas fait. Sans pression quand même. Hein.
Donc, il a fallu du temps, des années.
Ça a duré pour le règlement définitif. La décision, moins, mais pour concrétiser sur le terrain, ça a duré 4 ans.
D'accord.
Entre 3 et 4 ans.
Et il y a eu des ennuis ou des
C'était pas des
conflits?
ennuis, mais il fallait, il y avait rien juridique, il y avait un vide juridique
D'accord.
pour pouvoir rendre la terre aux agriculteurs et le concrétiser officiellement, que tout soit clair,
D'accord.
enregistré au cadastre et tout. Alors c'est
Mais
vrai.
politiquement, vous...
La
Ah
décision,
vous avez eu la
oui.
victoire.
En fait, on l'a eu en réalité le 3 juin 1981.
Oui.
Officiellement.
Donc,
c'est un discours,
un décret.
3 semaines
Un
après
décret.
L'élection présidentielle.
D'accord. Et Mitterrand a dit quelque chose à la télévision ou il a un communiqué de presse?
Non,
Non, si je
le
crois que
10 mai
s'il avait.
81, non.
Non, 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 pas le 10 mai après, il a dit j'ai décidé de rendre la terre aux agriculteurs, la terre sera rendue aux agriculteurs, il l'a dit. C'est passé à la télé et là c'est en cours, ben bon. Mais c'est un engagement. Qu'il n'a pas été facile de concrétiser sur le terrain.
Ouais, d'accord, je comprends.
Parce que y avait. Jamais, je vous dis bien, ça a été aussi loin de l'expropriation.
Et puis il y avait des tensions avec le ministre
de la
de
Défense.
Défense,
Oui. Oula, oui.
Parce que lui, c'était un dur.
Le ministre de la Défense, lui, c'était mini-extension, point.
Ouais, ouais.
Et puis Mauroy, qui a
ouais.
été aussi droit comme un nid. C'est mon roi qui a été trouvé Mitterrand qui lui a dit ou ta parole est respectée ou je démissionne.
Ouais.
Et je dirai pourquoi. Parce qu'on avait à Lille un très gros comité Larzac.
J'allais dire que Lille est loin d'ici.
Oui,
oui.
mais on
Il y avait
avait,
un comité Larzac
voilà, à Lille qui était très actif.
D'accord.
Et où les gens avaient fait des pressions,
Il
mon
était
roi,
maire de Lille.
puisqu'il y avait eu des jumelages
Il était
entre des
maire de Lille.
fermes, ouais. des fermes et des municipalités de gauche. Et donc, des gens avaient travaillé au niveau du gouvernement, des gens des comités, et ça a porté ses fruits.
Ouais.
Je crois que rien n'est.
Ça a été important aussi, on ne l'a pas dit, mais il y a eu les moments où on a fait le jumelage avec les fermes et les hameaux du Larzac. Les municipalités de
Ah oui.
gauche, on leur demandait s'ils voulaient bien se jumeler avec
Une ferme
une
ou un
ferme pour nous
village ou.
soutenir moralement, financièrement, faire ce qu'ils pouvaient. Et ça a marché. Il y a eu,
Enfin, vous, par exemple, vous étiez
nous, à la
jumelé
ferme de
avec
l'hôpital,
Chambéry.
était jumelé avec Chambéry,
Ouais.
en Savoie.
En
oui.
Savoie.
Et il y avait une avenue qui s'appelait Avenue du Larzac.
À l'époque, bon après ça.
Mais peut-être elle y est toujours, hein. Puisqu'un jour on suivait un car
On essayait de
avenue du
demander
Larzac.
aux municipalités de gauche, par l'intermédiaire des comités Larzac, donc et après il y a une rencontre, une cérémonie, et donc
Un jumelage
voilà,
officiel des
chaque
deux
ferme
côtés.
accueillait sa ville, ou chaque hameau, des fois c'était des hameaux, c'était et ça renforçait le soutien.
Puis c'était un soutien aussi qui s'est traduit financièrement, c'est-à-dire que, par exemple, nous, Chambéry, a pris tous les enfants du Larzac en classe de neige,
Oh, d'accord.
gratuitement. Il y en a d'autres qui ont envoyé des scientifiques faire des études ici sur le Larzac, pour, en prévision d'un règlement du problème du Larzac. Il y a eu quand même des. Bon, il y a des municipalités qui ont. juste signé, bon, c'est très bien. Mais Lille a été jumelée, enfin, Villeneuve-d'Ascq exactement.
Ah oui.
Mais il y avait bon, Toulouse, il y avait Albi, il y avait Avignon, il y avait Grenoble,
Nîmes,
Chambéry, Nîmes. Ouais, oui, il y en avait d'autres encore.
Oui. C'est
bon.
Et par la suite, vous vous êtes engagé dans d'autres luttes ou vous avez,
oui,
vous
ben,
avez participé à des associations.
C'est-à-dire, ou... c'était le Larzac qui était engagé en retour de solidarité avec tout ce que nous avait, qu'on avait reçu comme soutien. Il fallait rendre cette solidarité là où on nous le demandait, que ce soit des luttes locales
ou
internationales. Comme,
les Kanaks, les Tahitiens,
le Japon.
Bon, le Japon.
Après la victoire, on a fait des rencontres internationales pour la paix.
Thierry Buarin
qui avait organisé ça. Et donc on a reçu beaucoup de délégations étrangères, et notamment des Japonais qui étaient venus à 17. Et ils nous ont invités à, après à aller soutenir les étudiants qui étaient contre l'agrandissement de l'aéroport de Narita. Et en 82, on y est allé. On était tous les deux avec d'autres, on était 8 ou 10 de l'ARZAC avec notre avocat François Roux. On est allé là-bas les soutenir.
Oui,
d'accord. Et puis, il y a eu après Tahiti, on est allé à Tahiti beaucoup plus tard, après.
Qu'avec les Kanaks, beaucoup,
les
là, Kanaks, ça a été très très fort.
Il y a eu des liens très très forts, il y en a toujours.
Jean-Marie Thibault, tous les Jean-Marie Thibault, Oscar, tous les chefs de région
sont venus
plusieurs fois sur l'Arzac. Oui, d'ailleurs, le Larzac a donné un coin de terre aux Kanaks. Et c'est sur l'Arzac qu'il y a une terre kanak qui appartient au peuple kanak.
Ah, d'accord.
À côté du Cune, là, oui, il en a construit une caselle en pierre. Bon, mais... Et c'est fou parce que tous les week-ends.
Il y a eu des cérémonies là.
Ah oui.
C'est un lieu vraiment presque de.
Porteur
de quelque chose. On sait bien, dans ce coup, on voit la caselle, on voit la flèche laitière. Il y a des drapeaux, il y a. Après, il y a eu les morts, là, il y a eu la Chibaou, il y a eu les... On a fait beaucoup de cérémonies, des choses de commémoration. Puis eux, quand ils viennent avec la coutume, tout ça, c'est très très fort.
D'accord.
Et puis là, il y a deux ans, on a vécu la cérémonie.
Ça, c'est alors vraiment.
C'est-à-dire que les familles de Yewene et de Jean-Marie Chibaou ont pardonné à l'assassin. L'assassin de Jean-Marie Chibaou et de Yewene a été tué par un flic.
Djoubeli Ouéa.
Et le flic qui a tué Djoubeli Ouéa, l'assassin, donc, il était là aussi à cette caserne, dans ce lieu sur le Larzac, en même temps que Marie-Claude Chibaou et la femme de Yewene et la femme de l'assassin. Toutes ces femmes étaient là et elles nous ont
raconté ce pardon.
Et ça, on l'imagine.
Il y a un film qui vient d'être fait aussi.
C'est extraordinaire.
Ça, c'était à combien de temps?
Ça, c'était en 2005. En juin, le 12 juin 2005.
Vous venez de faire le pardon, là. Et le DVD, il vient de sortir, là, cette année.
15 ans, malheureusement. 15 ans pour pardonner.
Ouais.
Et c'est grâce aux églises évangéliques, aux églises
protestantes, catholiques.
Les prêtres, les pasteurs. Allez voir les familles. Et, parce que la femme de l'assassin, qui était présente là, la femme s'appelle Ouéa, elle s'appelle, mais son prénom, je ne me souviens plus. Et elle a essayé d'aller demander pardon pour son mari, parce qu'en fait, son mari a été tué aussi sur le coup. Elle ne savait pas pourquoi, elle-même. Elle est restée sans réponse. Sa question est restée sans réponse. Pourquoi il a fait ça? Puisqu'elle est morte tout de suite, elle est tuée par le flic. Et donc, elle a voulu essayer d'aller demander pardon aux familles, mais elle s'est fait.
Non, ils n'ont pas voulu la recevoir, quoi.
Ils ont été enfermés dans son village, dans sa tribu, pendant 15 ans. Ça a été très, très dur. Et petit à petit, les familles Yewene et puis la famille, c'était drôle de voir ça, parce que Marie-Claude Chibaou, c'est une femme du monde, quoi. On voit qu'elle a vécu, elle est sortie.
Les femmes
de
Yewene,
c'était des femmes de chef. Alors que la femme de l'assassin, elle était dans une villageoise, quoi. Elle est restée tout le temps
de cet échange.
Elle a parlé la dernière, en plus, la tête baissée. Elle avait du mal à relever la tête, ce qui m'a frappé.
À me regarder.
À la fin, quand elle a parlé, Il y a un rayon de soleil, du soleil qui passait sur son visage, qui illuminait.
C'était. Mais on était près de 400 personnes, on était plus de la moitié à pleurer, tout de loin.
C'était très fort. Ça a duré, parce qu'alors ça a duré déjà toute la journée. Elles sont arrivées le matin, il y avait des enfants, leurs enfants, il y avait leurs enfants qui sont adultes, bien sûr, qui ont 30 ans. Et puis alors quand ils prennent la parole, c'est très lent, c'est très lourd, c'est plein de respect. Le fils de Marie-Claude Chibaou, il disait, moi je vous parle, mais moi je suis pas important, c'est ma mère. Il y a un respect, ils sont extraordinaires, vraiment, ils nous apportent.
Ah oui, c'est, ils ont
et donc,
un bon sens.
Après il y a eu la coutume qui a duré longtemps, et après il y a eu le pique-nique, et après à 2 heures, ils se sont mis ensemble, et là ils ont commencé à parler, mais c'était... On se demande comment elles ont réussi à pardonner. Quoi.
Ouais.
Et elles se sont embrassées devant nous. C'est... Ouais. Alors que leurs maris ne sont plus là, quoi. C'est des veuves. C'est, des...
Oui, c'est ça, vrai ça. Que là.
À pour dire que voilà, il se passe des choses comme ça encore aujourd'hui sur le Larzac, 30 ans après notre lutte. Ouais. Et... Ouais. Des choses fortes, quoi, très très fortes.
À Montpellier, il y a une très grosse communauté kanak. Et ah oui, de tout temps. Hein, et ils viennent, mais tous les week-ends, il y en a qui viennent sur le Larzac. C'est pour eux un lieu de référence, cette caselle.
Ouais, d'accord.
Comment ?
D'accord, j'ai compris. Ah, oui.
Et donc.
Ils viennent régulièrement. Ouais, là, au mois de juin, il va y avoir de nouveau un rassemblement des Kanaks ici. Donc, ils nous invitent. Ils font des bougnas. C'est un repas Kanak qui font cuire dans des feuilles de bananier. Ils préparent un feu à 6 h du matin.
Cuit aux pierres chaudes.
Ouais.
Chauffé, quoi.
Ouais, d'accord. D'accord. Donc, dernière question, c'est une question bête, pardon, mais parce que quand je demande de réfléchir aux années 70 de maintenant, il est bien évident que les villes ont été transformées et l'évidence de cette transformation est toujours là, c'est ça ?
Bien sûr.
Enfin, je ne sais pas si elle est là. Bon, nous, on a le sentiment qu'on a changé pour beaucoup de choses.
On est oui, on se sent
mais on est plus sensible et plus ouvert aux problèmes du monde. Et plus révolté aussi. Hein. Ça, c'est, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas supporter. Bon, enfin, on ne va pas en parler parce que ça durerait, on pourrait en parler des jours. Mais on s'aperçoit qu'on ne peut pas. Bien sûr qu'on n'a pas le même courage qu'on avait, donc on ne peut pas aujourd'hui avoir le même ressort qu'on avait pendant les années de lutte. Ouais. Alors c'est vrai que bon, on limite ce qu'on doit faire. Sinon, je crois que presque tous les jours, il y aurait des réunions, où il y aurait quelque chose. Mais que ce soit le Larzac, Millau ou la région, Il y a une telle évolution à cause du Larzac, soit par les gens qui sont venus ou autre, qu'il se passe beaucoup de choses. Mais on ne peut pas participer à tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, les OGM, c'est quand même quelque chose... C'est un des combats d'aujourd'hui, parce que c'est un combat pour l'avenir aussi, et puis pour simplement la sécurité alimentaire des gens, parce qu'on ne sait rien du tout, et c'est même très discutable, plutôt, on sait certaines choses qu'on ne veut pas nous dire. Mais bon, on ne peut pas avoir le même engagement, mais ce qu'on a vécu nous a permis d'être où on en est aujourd'hui.
On est resté sensible à tout ce qui se passe, qui concerne, oui, tout ce qui est injuste, en fait. Si on peut, on milite, mais bon, en même temps, nous, on a des petites retraites et on est encore obligé de travailler, donc on fait le ramassage scolaire,
ouais, parce c'est que
pour arrondir les fins de mois, comme on dit. Et...
Pour y arriver. Hein,
puis c'est vrai vraiment, aussi que le militantisme, ça coûte cher.
Oui, bien sûr.
Je me souviens, une fois, on était à une réunion, on présentait la cassette du Larzac, il y a 2 ou 3 ans, et il y a un monsieur qui était avec nous à la table, là, et qui prenait la parole, il disait, ça coûte cher, le militantisme, il a fait rire toute la salle, parce que c'est quelque chose qui est vrai, ça coûte de l'argent. Et donc... C'est pas toujours facile. Quand on était plus jeune, on avait une vie économique un peu plus facile qu'aujourd'hui. Ouais. Et on n'est pas les seuls. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont obligés.
Même en activité.
Qui sont en activité, qui souffrent. Et donc, ne peut pas être partout et au travail. Et nous, on a fait ça pendant 10 ans parce qu'il le fallait, on était directement menacés. Mais aujourd'hui, on peut choisir. Aujourd'hui, la lutte, elle est mondiale, elle est pas, c'est pas local. Hein, comme...
Mais ce dont on s'est aperçu, c'est que, heureusement, la lutte du Larzac est intervenue dans les années 68, c'est-à-dire après mai 68,
oui.
Dans un contexte économique des années glorieuses, où tout nous réussissait au niveau agricole. Donc on n'avait pas à se préoccuper tellement de... D'abord, on n'avait pas à se diversifier par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, les paysans, même dans des régions comme chez nous, qui avaient une assise lait de brebis, donc production de roquefort très forte,
oui.
Eh bien, sont obligés de faire autre chose ou de quitter roquefort pour fabriquer d'autres produits que du roquefort, parce que roquefort, bientôt, ça paie, pour les petits agriculteurs, ça ne paiera plus.
D'accord.
Il y a une telle évolution que la lutte arriverait aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se passerait.
Elle est arrivée au bon moment.
Oui. Je raisonne
oui.
avec la mentalité de l'époque. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir aujourd'hui, il y a des gens...
moins de globalisation à l'époque.
Non. Oui, il y avait beaucoup moins de globalisation, mais avec la mentalité des gens de oui. l'époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup... Les néo-ruraux
oui.
vont devenir majoritaires sur le Larzac.
D'accord.
Donc c'est des gens qui ont choisi de venir vivre ici.
Oui.
Nous, on n'a pas choisi. C'était dans la tradition, on était oui. paysans, point. Aujourd'hui, c'est des gens d'ailleurs qui viennent, qui ont un autre vécu et une autre formation que celle d'agriculteurs.
Oui.
Et donc le problème ne se passerait certainement pas de la même façon. Il n'y a pas de ferme abandonnée aujourd'hui, alors qu'à l'époque, il y en avait.
D'accord. Donc, ils ont quelle perspective, les néo-ruraux ?
Mais c'est des gens qui réussissent très bien.
D'accord.
Économiquement.
Économiquement.
Ah oui, qui sont très pointus.
À condition qu'il n'y ait pas des grandes sécheresses.
Voilà. Oui. Ça.
Parce que ça, c'est un problème.
Il y en a, c'est comme partout, hein. Il y a des gens qui sont nuls. Hein. Bon.
Oui.
Mais...
Et toujours les brebis, c'est dire que ça.
Oui, brebis, si, il y a des bovins aussi.
Oui.
Il y a des bovins, mais il y a maintenant beaucoup plus de transformation, c'est-à-dire de la vente fermière.
Oui.
À notre époque, il n'y avait rien. Ça n'existait pas.
Oui. Vous avez vendu directement à l'industriel.
On vendait à un organisme, un groupement de producteurs, nous en l'occurrence, c'est une coopérative qu'on avait.
Oui.
Et le lait était vendu à Roquefort, aux différentes sociétés.
Ouais. On devrait terminer, c'est ça ?
Oui, on a 10 minutes. Hein,
pour... 10 minutes ?
10 minutes, un quart d'heure, jusqu'à l'écart, mais pas plus.
Est-ce que vous avez des dernières réflexions ? Peut-être, on n'a pas parlé du rôle des femmes, par exemple. On a parlé plutôt d'une division de travail. Est-ce que les femmes... avait un rôle particulier pendant la lutte.
Ben, on avait les tâches qu'on pouvait appeler subalternes.
Mais
en fait, peut-être au départ, c'était un peu difficile pour nous, enfin pour moi, mais je pense que j'étais pas la seule, parce qu'il s'agissait d'un camp militaire, donc ça concernait peut-être un peu plus les hommes parce qu'ils avaient fait leur service.
Oui.
Ils comprenaient peut-être plus rapidement. Bon, puis les femmes, on allait aux réunions, on participait à toutes les actions. Je crois qu'il n'y a pas eu tellement de différence au niveau de la participation. Les femmes, une seule fois, il y a eu une action de femmes.
Oui.
Elles sont allées, enfin je dis elles parce que j'étais à la maternité avec mon fils. Donc elles sont allées déchirer des papiers,
des dossiers d'enquête
parcellaire dans les communes.
Dans les mairies,
il y a 11 communes qui étaient concernées par l'extension du camp. Donc des femmes par groupe de 2 ou 3 sont allées déchirer des dossiers. Et puis une autre fois, il y avait...
Pourquoi les femmes ?
Parce qu'on voulait faire une action de femmes, un peu.
C'était après que les hommes ont renvoyé le livret militaire.
Voilà, parce que nous, on aurait bien renvoyé notre livret militaire, mais malheureusement, on n'en avait pas. Donc on a joint une lettre avec les livrets de nos maris, en disant qu'on était solidaires, parce que si eux, ils quittaient le Larzac, nous, on le quitterait aussi, et nos enfants aussi. C'était une lutte de famille, en fait. Et puis une autre fois, il y avait aussi des fermes qui avaient été achetées par l'armée, sur le Larzac, des fortins
oui.
qui étaient occupés par les militaires et ils passaient sur la route sans arrêt et notamment aux heures de ramassage scolaire
ouais.
ils passaient en convoi donc Une fois, on a fait une action de femme uniquement.
Une fois, non, mais vous ne l'avez pas fait qu'une fois.
Non, mais c'est pour dire, on l'a fait plusieurs fois. Non, mais une fois, on voulait... voilà.
Moi, ça me gêne.
Mais oui, il n'y a pas eu de... Non, vraiment, c'était une lutte de famille.
De famille, oui. Il faut bien comprendre que s'il n'y avait pas eu les femmes sur le Larzac, il n'y aurait jamais eu d'affaire du Larzac.
Bien sûr, oui.
Ça, c'est clair. Parce que les... quand elle dit, il faut voir l'intendance qu'elles ont
voilà,
assurée, l'accueil des journalistes.
L'accueil des journalistes.
Mais je peux vous dire.
Quand il y avait des assemblées générales des GFA, des groupes
de
l'école, il y avait 350 ouais. personnes, donc il fallait préparer l'accueil.
Pour manger, pour boire. Pour...
Et ça, c'était souvent, mais bon.
Non, mais je crois qu'on ne peut pas mélanger la lutte du Larzac, c'était une. Par rapport à une lutte ouvrière. Une lutte ouvrière, les gens vont au boulot.
Au boulot, voilà. Ici,
et c'est dans l'usine qu'ils occupent, qu'ils mènent l'action. Nous, c'était dans nos familles.
Dans nos fermes,
lutte,
dans nos maisons.
Voilà, dans les maisons, surtout dans les maisons. Quand je dis dans les familles, c'est les enfants. Nous, on avait une fille, l'aînée, elle demandait quasiment tous les jours...
Combien je mets d'assiettes pour mettre le couvert.
Eh bien oui, parce qu'il y avait toujours des gens.
Oui, oui.
Soit tu n'étais pas là, tu étais absent, tu étais en réunion, soit... voilà. Bon, et puis, par rapport aux femmes aussi, c'est vrai que selon notre situation familiale et notre âge, parce qu'attention, nous, on était jeunes, mais il y avait des gens qui avaient 20 ans de plus que nous dans la lutte.
Oui, oui.
30 ans même.
Selon l'âge qu'on avait, le dynamisme qu'on avait,
oui, puis c'est normal.
Les enfants, moi c'est vrai qu'à cause des enfants, j'ai pas participé à tout, peut-être comme Marisette.
Oui.
Par contre, il arrivait que ce soit aussi, je suis honnête, un refuge pour moi, parce qu'il y avait des actions qui me faisaient peur, et j'étais bien contente d'avoir les enfants pour ne pas y aller. Et d'autres fois, je râlais parce que j'aurais aimé participer, mais bon.
Oui.
Mais on arrivait quand même à s'arranger entre nous pour... pour pouvoir participer. Quoi.
Ouais.
Non, mais
c'était difficile de mener de front la vie de le métier agricole, la vie de famille et la vie militante. C'était pas facile.
Oui, d'accord, je comprends. Ouais. Ouais.
Savez,
c'était très intense.
Ouais.
Dans des conflits comme l'IP, par exemple, il y a eu beaucoup de divorces.
Oui.
Bon, le Larzac de la lutte, il n'y a eu aucun divorce.
À l'époque.
Pourquoi ? Parce que c'était. Effectivement, c'était.
Si, il y en a eu, Pierre.
Non, mais après. Après. Ah oui,
pendant.
Mais pas dans la lutte, rien. Et puis,
bon,
parce que c'était les familles, la famille qui prenait en compte la lutte. Et,
parce que l'IP, c'était les gens étaient engagés comme travailleurs.
C'est-à-dire c'était celui qui travaillait, soit l'homme, soit la femme,
oui.
ou les deux.
Tous les deux ne travaillaient pas dans l'usine,
mais c'est ça,
celui qui se retrouvait à recevoir les informations de son conjoint quand il rentrait de l'usine pour dire voilà ce qui se passe, etc., il ne pouvait pas participer de la même manière. Alors que nous, c'était... tout est imbriqué dans une ferme. Les bêtes, la famille, tout est... On vivait la même chose.
Charles Piaget, bon, sa femme, elle est morte, mais elle lui reprochait de se battre et de ne pas accepter un bon classement. Et puis, et c'est ça, dans une. Nous, il n'y avait pas ce problème.
Non, ça c'est vrai.
Pas de suicide ?
Non.
Non, à ce moment-là, non. Non, on était même, je dirais, bien équilibrés. C'est fou, hein, mais...
Mais ce qui était extraordinaire, c'est
après que...
On était d'âge très différent, en fait. Hein. C'est vrai, il y avait des gens âgés, mais il y avait son père, il se bagarrait comme nous, et des jeunes de 20 ans arrivaient, ils lui tapaient sur l'épaule, il l'appelait Léon. Et lui, qui avait été un notable, qui disait « vous » à tout le monde...
Des jeunes de 20 ans qui tutoyaient mon père, alors ça me...
Et au début, il disait « mais il me tutoie... » Et lui, il leur disait « vous » au début. Et après, il les a tutoyés.
Non, papa, il n'a jamais tutoyé les jeunes. Non. Et c'était lui qui disait toujours, oh mais, quand on faisait des grands rassemblements, et alors Léon, comment ça va ? Mon père, le bon Dieu est avec nous.
Parce c'est beau, il disait le bon Dieu est avec nous.
Pour des grands rassemblements.
C'est vrai qu'on avait toujours cette chance aussi, c'est incroyable.
Et il y en avait des copains qui disaient, ah, tiens, j'ai vu le bon Dieu est avec nous là. Ah, tant qu'on l'aura.
Donc il n'y avait pas de conflit de génération ?
Non.
Pas à ce moment-là, parce qu'on avait assez à se battre contre les militaires.
Mais même,
contre le
même
gouvernement, donc,
d'autres familles, même les Allah, il n'y a pas eu de conflit de génération.
Non, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de différence de point de vue entre vous, les jeunes, et puis la génération
de
vos parents. Vous étiez tous ensemble.
Oui, mais enfin, on était tous ensemble, mais il y en avait quand même qui avaient plus ou moins le moral. Hein.
Oui.
Et il y avait justement les non-violents de la communauté de l'Arche qui occupaient les Truelles, la ferme des Truelles. Il y en avait un, Roger Moreau, qui passait dans les familles On l'appelait le veilleur de morale. Il était prêt à discuter pendant des heures avec quelqu'un qui disait « Oui, mais de toute façon, on a beau faire ça, on ne gagnera pas. » Il y avait des moments où il y avait des gens qui étaient vraiment dans le creux de la vague, ils ne savaient plus comment repartir et il fallait les soutenir. Oui. Parce que Jeanne Jonquet, notamment, vous en avez peut-être entendu parler, à la Blaquière, qui a plus de 80 ans, à l'époque, elle en avait 50 et elle avait 30 ans de plus que nous. Donc des fois, elle voyait pas l'issue de la lutte. Puis elle était vraiment au bord du camp militaire.
Plus non plus, on ne la voyait pas, mais c'est vrai qu'on surveillait beaucoup, comme on dit, le moral des troupes. Ça, et Roger Moreau, de la communauté de l'Arche, c'était sa fonction, à lui, d'abord, il faisait la coordination entre les gens du plateau, mais avec Pierre Molena, aussi un technicien agricole, il s'occupait un peu de surveiller le moral des agriculteurs. Parce
quand vous dites surveiller, vous voulez dire remonter la...
Remonter le moral.
Non, mais c'est-à-dire, des fois, ça se faisait à plusieurs.
Oui, d'accord. Hein?
Mais de voir comment les gens réagissaient.
C'est un travail de psy, en quelque sorte.
Oui,
voilà,
tout à fait. Oui. Se soutenir les uns les autres, parce que c'est vrai que quand on a 25 ans ou 30 ans, on a plus la pêche que quand on est plus vieux.
Et une des choses qui nous a aussi permis de garder un équilibre, c'est que chaque fois qu'on faisait une manifestation, après, on faisait le bilan, mais on faisait la fête. On riait, on mangeait. On buvait, bon, pas pour se saouler, hein, non, jamais, je ne pas dans ces genres de choses, c'est pas là que les gens se saoulent. Mais on faisait toujours la fête pour que, et c'est important, parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas venus à l'action, mais qui venaient faire la fête le soir, parce qu'on leur dit, allez, on peut dire, hein, de voir le moral qu'avaient les autres, et celui qui n'était pas venu disait, oh, la prochaine fois, je vais y aller. Ça avait un impact là-dessus.
Ouais.
Et que, donc de sauvegarder toujours ce noyau des fameux 103 pour qu'il n'y ait pas de gens laissés pour compte sur le côté. Et ça, ce serment aussi, ça a été la meilleure chose qu'on ait faite. Enfin non, on a fait des bonnes choses, mais ça a été une des bonnes choses.
Et est-ce qu'il y a des moments qui sont commémorés, enfin des dates particulières où certaines actions, certains moments sont commémorés, par exemple le jour du serment, je ne sais pas.
Non, mais quand on a fêté les 30 ans du Larzac, on a fêté le rassemblement de 1973, on l'a commémoré par un autre grand rassemblement, celui de 2003, aux OGM et tout ça, sur le Larzac, il y avait 300 000 personnes. Et le départ, c'était 30 ans après.
Oui.
30 ans après, le premier rassemblement du Larzac. Voilà. Sinon, non, il n'y a pas de... On ne fait pas de commémoration.
Non, mais c'était pas neutre, là aussi, qu'il y ait plus de 300 000 personnes qui soient venues. Même pour les OGM, c'était pas que pour les OGM, il y avait beaucoup de gens. Nous, on a revu des quantités de gens des anciens comités Larzac, qu'on n'avait jamais revu après. Il a dit, bon, maintenant...
D'ailleurs, il y en a même qu'on n'a pas reconnu.
Oui, on va sur l'arbre.
Ils ne sont fait que couper les cheveux.
Non, mais
ils ont perdu leurs cheveux.
C'est dire l'impact que le Larzac a quand même dans l'opinion, mais pas simplement en France, et où des gens, pour beaucoup de gens, c'est devenu une référence. Bon, elle est ce qu'elle est, mais... c'est un combat qui a été gagné, même si c'est par un coup de poker.
Oui. Enfin, une élection.
Non, mais bon, j'appelle ça un coup de poker. Oui, mais bon. Le Mitterrand aurait pu dire j'abandonne le camp et puis le faire quand il était élu.
On avait déjà gagné dans la durée. De toute façon, on disait même si on perd, on aura quand même gagné.
Oui.
Dans la durée, parce qu'on avait gagné beaucoup de choses. Oui. Solidarité, déjà, c'était une victoire.
Oui.
C'est vrai, c'était. Et, après que. 5-6 ans, on a dit, il faut qu'on dure, il faut durer. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais voulu rompre, ça des comités nous l'ont reproché, de ne pas, de garder toujours des liens avec la FDSEA ou la FNSEA. Mais on n'a jamais voulu rompre ces liens-là, parce que avoir le soutien de la FNSEA, c'était avoir le soutien de tous les élus politiques du département. Non, peut-être pas le soutien de tous, mais en tout cas, de ne jamais avoir la condamnation. Parce que la FNSEA, les politiques du département n'auraient jamais accepté d'aller à l'encontre de ce que pensait la FDSEA. Parce que là, c'était un poids. Et c'était un poids aussi par le CNR, un poids au niveau de l'Église. Beaucoup, les gens, on était sur le Larzac à l'époque, on était 98% de catholiques pratiquants. Bon, aujourd'hui ça a changé, mais bon, c'est comme ça, hein.
Oui, d'accord.
Mais on reste toujours, on renie pas nos origines chrétiennes, loin de là, au contraire. On en est fiers, mais pas des piliers d'église maintenant, non, c'est vrai, on l'était. Mais bon, ça après la hiérarchie, on a.
Et la foi et la religiosité, c'est deux choses.
Oui, d'accord.
On a la foi. La preuve, on l'avait pendant la lutte, elle nous a permis de gagner.
Oui, mais c'est vrai que c'est.
La foi en l'homme, la foi en la vie, la foi en Dieu. Oui,
mais bon, peut-être.
Vous pensez que la foi et puis la ténacité des paysans, ça, ces choses-là ont compté pour vous?
Pour nous, oui.
Oui. Oui.
Vous savez, il y en avait des.
Ça a été le moteur, je pense, de départ.
Des fois, qui nous le disaient.
Enfin, pour nous, ouais, ça a été ouais, notre ouais. moteur.
Mais tu te rappelles.
La foi.
Oui, d'accord. Oui.
La foi qu'on avait en Dieu, et puis la foi en
la dans ce
foi,
qu'on faisait.
Dans ce qu'on faisait, dans ce qu'on vivait. On avait cette foi, c'est vrai. Ouais. On y croyait, sinon on n'aurait jamais lutté.
Je crois que,
on a abandonné dès le départ. Ouais.
Hein. On s'est situé dans le plan de Dieu. C'est vrai. Ça paraît
et
un
on
peu...
disait toujours notre cause est juste.
Oui.
De toute façon, on fait cette action parce que notre cause est juste. Donc c'était lié à notre foi, finalement.
C'est une sorte de croisade ou...
Non, comme on dit, pas une croisade.
On
n'a
jamais
non.
su, en tout cas,
non,
que c'était
non,
une croisade.
Ah, non,
on
ne
vivait
non,
pas
non,
comme
non,
ça.
Non, non.
Maintenant, avec le recul, oui, on peut dire ça.
Ah non, moi je ne dis pas ça du tout. On nous a agressés.
Oui.
On a voulu nous priver de notre outil de travail. Par des décisions de technocrates de Paris, nous, on n'a fait que se défendre. On s'est défendu en plus avec des moyens qu'on a choisis non violents.
Oui.
C'était pas, on n'a pas mené une croisade. Alors que beaucoup ont dit, la montée à Paris, à pied ou avec les tracteurs, ou c'est la croisade du Larzac. Il y en a beaucoup qui l'ont dit.
Oui.
Mais ce n'était pas du tout une croisade. Nous, on va dire à Paris ce que... et à travers Paris, à tous les Français, ce que le gouvernement ne veut pas entendre,
ouais.
ou ne veut pas dire. Mais c'est pas du tout dans cette idée de... Non, parce qu'une croisade, il y avait quand même... l'idée, c'était pour Dieu, soi-disant. Hein.
Ouais.
Bon, nous, on avait nos convictions, on n'a pas imposé à tout le monde de... d'aller derrière la croix du Christ, de monter à Paris quand même, quoi. C'est pas, je veux dire, c'est l'esprit
oui.
qui est...
C'était une lutte d'autodéfense.
Voilà.
Ah oui.
Tout à fait, oui.
Avec de la foi.
Oui.
Ah, mais avec la foi, ça c'est sûr. Mais la foi, il n'y a pas que ceux qui ont la foi en Dieu. Il y avait beaucoup de gens, beaucoup de... qui ont découvert aussi la foi en quelque chose. Il y en avait qui étaient complètement... Ils n'avaient plus confiance en rien. À travers le Larzac, ils ont retrouvé de la confiance. Il y a des gens qui se sont reconstruits, qui étaient, je ne veux pas dire zonards, mais qui étaient mal dans leur peau, puis c'est tout, quoi.
Ouais,
ouais. Et qui ont retrouvé une espérance avec le Larzac, avec la famille qu'avait constituée le Larzac, c'est vrai.
Ben oui, parce qu'il y avait une telle solidarité entre les gens que ceux qui se sentaient seuls, là, ils retrouvaient une famille, donc c'était très fort pour eux. Ils avaient besoin de venir régulièrement pour se ressourcer en quelque sorte.
Ça, c'est...
Vous allez vous y retrouver.
Oui. Donc c'était une grande famille.
Oui.
C'est toujours une grande famille.
C'est toujours,
oui.
C'est toujours, oui.
Et pourtant, on n'est pas tendre entre nous.
Oui, on se fait des fois.
On sait s'engueuler. Hein.
Ben, c'est comme ça dans les familles.
Oui,
mais non, moi je peux pas, j'aime pas m'engueuler avec
on
ma femme.
On n'aime pas, mais bon.
Bon, encore, ouais. Je crois qu'on peut s'arrêter là. Je vous remercie infiniment de votre témoignage. Merci.